C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ça chauffe du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, ou alors on se parle, le Maroc peut dire bye bye à un éventuel titre. Il serait sorti par l'Afrique du Sud. On en parle dans quelques minutes. Actualité qui crépite avec à Marseille, ça chauffe de tous les côtés. Klaus est sur le marché, ça on va en discuter dans quelques minutes. Le président est dans la place. Un œil sur vous le président, un œil sur la CAN, un œil sur son ville-peuple. Bonsoir Didier Roust.
Je suis partout. Il reste 6 minutes dans les arrêts de jeu. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu quand même. Voilà, amis des Mikado et des puzzles, bonsoir.
Ok. Et je présente votre ville-peuple, le Chilien est dans la place. Regardez.
Oui, parce que je bouge.
Voilà, ouais, bah oui. Le Chilien, Hugo Guillemet est dans la place. Bonsoir, monsieur.
Alexis Sanchez, por favor.
Salut, président, salut, Mémé.
Ça va?
Ça va, impeccable. Je suis content d'être là.
Je vais gifler votre voisin.
Ils ont marqué un deuxième but.
Eh oui, l'Afrique du Sud a marqué un deuxième but. On va voir les images dans quelques minutes, mais le Parisien est à gifler.
Ouais. Le Parisien? Il vaut mieux l'avoir en journal.
Alors, Dominique, bonsoir.
Bonsoir, mais il y a un petit décalage entre
les deux. C'est terrible. Terrible.
Ah oui?
Le coup.
D'accord. Okay.
Je crois que le Maroc est en train de se faire éliminer.
2-0 pour l'Afrique du Sud à quelques minutes de la fin.
Il va rentrer cette semaine à Paris, j'ai l'impression.
Oui, on a l'impression. La blonde de l'équipe du soir. Bonsoir, ma chère Karine.
Bonsoir, Mémé. Bonsoir à tous.
Ça va? Jolie chemise.
Merci beaucoup. Non, j'ai un siège qui me fait chuter.
C'est vrai?
Chuter? Oui, parce qu'il est trop incliné, vous voyez.
J'arrive.
C'est compliqué de rester.
Je présente le dernier copain, puis on va faire un échange de tabourets. C'est toujours la peine. Damien Legor, le poignardeur de l'équipe du soir. Bonsoir, Damien.
Bonsoir, Mémé.
Bah oui, il faut regarder le public dans les yeux. Regardez, mais là, c'est le moment.
D'écouter, c'est vrai.
Non, mais regardez votre caméra, là. Voilà. C'est la bonne caméra. Ça va?
C'est de parler un peu.
Très bien, merci.
Juste avant de présenter Virginie Saint-Cylie, on va faire un changement de tabouret.
Beaucoup fort.
Bonsoir Virginie Saint-Cylie.
Bonsoir Mémé.
Comment ça va Virginie?
Ça va et vous?
Ça va, bon pour l'instant, la Coupe d'Afrique des Nations, le match du Maroc n'est pas encore terminé, donc on ne va pas vous activer tout de suite.
Non mais je surveille.
Ben vous surveillez.
Dès que le match est fini,
L'actualité du Mercato, Klaus est à vendre, on l'a appris hier avec une certaine surprise, l'OM met Klaus sur le marché, une information du groupe L'Équipe, est-ce un manque de respect de la part de l'OM? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Klaus, placé sur le marché. Mmh. Bah, vous pouvez me croire en régie quand même. Est-ce un manque de respect de la part de l'OM? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. D'ailleurs, ils ne sont jamais d'accord. C'est dans leur contrat. Sévrac face à Degor. Oui pour Dominique. Bonsoir, non pour Damien. Dominique?
Oui.
Vous portez le premier coup, les stockades?
Bien.
Poignardeur?
Comme vous voulez.
Les yeux dans les yeux? Non. Vous êtes prêts?
Ne vous dérange pas, c'est pas moi qui parle, je regarde le match, parce que ça m'intéresse pas en fait.
C'est vrai?
Quelle honte.
J'ai l'impression que vous êtes content de vous retrouver. Allez, Dominique, c'est à vous.
Écoutez, Mémé, je connais parfaitement cette petite musique qui consiste quand une saison n'a pas le déroulé que vous voulez, qu'elle commence à être un peu ratée, que vous sortez d'un nul contre Monaco et qu'il faut trouver des coupables. Et donc, je connais parfaitement ce moment où des dirigeants assez faibles qui ont raté leur mercato et des entraîneurs qui hurlent en permanence sur leurs joueurs sur le bord du terrain désignent des coupables au lieu de se regarder dans la glace. Je connais parfaitement cette musique qui consiste à dire que c'est la faute d'un tel et de pas considérer que c'est un sport collectif. Donc oui, c'est choquant ce qui se passe avec Klaus.
Damien, vous répondez non, vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ce que vous avez entendu. Quels sont, évidemment, ou quelle est votre lecture?
Et moi, je vois pas trop où est le manque de respect. Les joueurs, ils savent dans quel milieu ils évoluent, quoi. Ils évoluent dans une économie de marché. Ils évoluent pas dans un club de foot lambda. Il faut accepter les avantages que ça propose, mais aussi les inconvénients. Et si après, si Klaus, au bout de 6 mois, il avait eu envie de partir. Et d'ailleurs, il a eu envie de partir 6 mois après son arrivée à l'OM. Il s'est pas gêné pour le faire savoir. Là, il se trouve que la direction sportive de l'OM n'est pas très satisfaite de ses performances. Et que si il y a une possibilité de se séparer d'un joueur à forte valeur marchande, il le ferait. Je vois pas où est le manque de respect.
Ok. Damien a un peu plus parlé, mais Dominique avait...
Oui,
exagéré avec le chrono.
Si c'est pour accepter le libéralisme et dire que tout le monde est injuste, ils vont continuer comme ça. Non, c'est bien de donner la parole à des gens.
Si l'équipe va trancher, Damien face à Dominique. Président, vous l'avez écouté ce duel? C'est Damien ou Dominique et pourquoi?
J'ai écouté en regardant la dernière minute.
Ouais.
Là, il reste 45 secondes, 2-0 pour l'Afrique du Sud.
Ça va être chaud.
Déjà, j'aimerais savoir c'est quoi là que tu as autour du cou? Non, non, ouh, montre-nous, montre-nous. Oui. Non, non, c'est pas un collier, il y a quelque chose de très étrange.
Alors vous aviez un œil sur le match.
Oui, j'avais un œil aussi.
Sur
oui.
Les arguments,
et je viens de voir que.
Oui. Sur le collier.
Oui, moi, non, non,
je te le donne, je te le donne.
Non, là, vas-y.
Mais je te laisse parler.
C'est, d'accord. Bon, déjà, je veux en savoir un peu plus sur ce collier et ce que ça représente. Ça me paraît très louche.
C'est l'île de Bréa, c'est mémé.
C'est une pierre de l'île de Bréa. C'est une pierre qui porte.
C'est quand j'ai rencontré mémé cet été à Bréa.
Ah, c'est une pierre qui porte chance.
Il était sous talisman.
D'accord.
Didier, si vous pouviez maintenant.
Non, moi, je trouve que ça manque de respect parce qu'il n'y a pas que Maître Klaus sur le marché. S'il y avait ça, bon, je rejoindrais Damien. Bon, ça va, ça vient. Et Klaus, s'il veut partir aussi, il ne se gênera pas pour le dire. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Mais on n'est pas satisfait de ses performances. Ils ont droit. Les performances de Klaus depuis le début de la saison, quand tu vois les performances des autres, je dirais que c'est presque un des meilleurs. Donc ça ne tient pas beaucoup. Deux, il laisse entendre que sa blessure était bidon. Le gars était en pleurs, quoi. Il devait se faire du souci. Tu as le droit d'avoir mal, être en pleurs, parce que peut-être qu'il pensait adieu l'euro, adieu quelque chose, peut-être ça a tourné, ça a fait un bruit et tout. Et finalement, il s'avère qu'il n'y a rien, et tant mieux. Il laisse entendre aussi, il laisse filtrer comme quoi, dans les vestiaires, sa mentalité. Tu vois, donc, tu mets sur la place publique. Exactement. Parce que tu trouves tous les arguments qu'il faut. Coupable. C'est des choses, j'aime bien, ça doit toujours se régler en famille. Et là, Tu jettes un petit peu Klaus au milieu de l'arène comme ça, je trouve pas ça très élégant. Très, et je suis même étonné après qu'il. Alors après, s'il faut une super plus-value, qu'il vend 20 millions d'euros, je sais pas.
Ils pensent qu'ils vont trouver mieux.
Sportivement, oui, parce qu'après, déjà, il faudra le remplacer.
Ça, ils s'en fichent s'ils trouvent mieux.
Non.
C'est pas leur problème.
C'est
de le vendre à la.
Ça devrait,
effectivement. Au-delà du manque de respect, il y a un énorme manque de lucidité, en fait.
Bah oui.
Samedi.
En plus, oui, il y a une interrogation.
Donc, pourquoi. Samedi, Jonathan Klaus sort à la 35e minute du match contre Monaco en larmes. Problème de genou, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de grave. Les examens médicaux n'ont rien montré d'alarmant, d'où, on va dire, la suspicion de l'OM de dire « mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Klaus ?» Mais en revanche, aujourd'hui, dans l'équipe, qui nous donne également cette version, mais l'équipe nous donne des compléments d'information, il y a fort peu de chances que Klaus soit quand même opérationnel
contre Lyon.
Pour le match de dimanche contre
Lyon. En plus,
donc il simule, il exagère, mais il sera pas là dimanche.
Ouais. Le gars, il met 8 jours à récupérer d'une fausse blessure. Quoi.
Ouais, c'est ça le pire.
En fait, le manque de respect, il est là, en fait. Le manque de respect, il est de laisser que l'OM laisse entendre qu'il simule. Et que l'OM laisse entendre qu'en fait, il s'économise pour l'euro, pour les échéances futures, pour un transfert. Et ça, c'est dégueulasse, parce qu'en fait, Klaus, il quitte son fabuleux Lens quand même pour aller à l'OM. À l'OM, ça a toujours été un bon soldat, ça a toujours été un de ceux qui
l'a fait le plus. Il le fait pour le challenge sportif, d'ailleurs. Il a quitté Lens pour l'OM pour le challenge sportif.
L'OM, c'est toujours un gros challenge sportif. Bah, je vois ce que tu veux dire, Damien, t'es ironique, mais
bah oui,
l'OM, c'est quand même toujours un plus gros challenge sportif.
Quand tu passes de Lens à Marseille, c'est une progression.
Les deux clubs
sont en Coupe d'Europe.
C'est une promotion. Si, à l'échelle
d'accord,
du football français.
Là, j'entends Hugo dire il laisse son fabuleux Lens pour l'OM, comme si c'était un sacrifice.
Non, c'est son intérêt d'aller à l'OM.
Bah, évidemment que c'est son intérêt
d'aller
à l'OM.
Je suis d'accord avec toi. C'est son intérêt d'aller à l'OM.
Il y avait aussi des intérêts pour lui à rester. Il aurait pu rester à
l'OM.
J'ai raison d'interpréter ça comme ça.
Il aurait pu.
Il a le droit de vouloir gagner de l'argent.
Mais gagner de l'argent, pas là-dessus. Mais il ne faut pas non plus dire il laisse Lens à contre-cœur. Oui, moi, au contraire, il n'y a pas de souci, il n'est pas là non plus.
Au-delà de ça, sur les performances.
Oui, quand tu es un libéral.
Pas du tout en dessous cette saison, c'est un des meilleurs Marseillais cette saison, un des moins mauvais en tout cas, mais c'est un des meilleurs Marseillais cette saison. Et le manque de respect, il se conjugue avec le manque de lucidité, parce que laisser partir un des meilleurs joueurs comme ça à 3 jours de la fin du mercato, alors qu'il ne va pas être remplacé par un équivalent, il va être remplacé par moins fort, c'est évident, ça prouve juste qu'il n'y a plus vraiment de projet sportif et d'ambition.
Mais alors là-dessus, on est d'accord.
C'est
moi, je ne juge pas de la compétence.
Mais oui, mais le traiter comme une marchandise comme ça, de trading,
parce que
de respect.
Ah, mais parce que les
clubs... Pas à 3 jours de la fin du mercato.
Ne traite pas les joueurs comme des marchandises.
Donc on a le droit de dire que ça manque de respect, 3 jours de la fin du mercato.
Il faut que ça soit établi, il faut qu'on dise que bien.
C'est dommage qu'on s'en offusque de façon parcellaire comme ça.
Non, c'est pas vrai.
Toi oui, mais pas tout le monde.
Non,
ici.
Mais d'accord.
J'entends pas tout le monde s'élever de la même manière sur Ekitike que sur Klaus, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est toujours à l'OM et qui s'y reste à l'OM, continuera de jouer et sera pas comme Ekitike mis au rencard.
Karine est plutôt dans la tendance Ekitike, qui est un joueur qui a refusé de partir, qui était dans son bon droit, qui n'a pas braqué le club pour avoir un salaire stratosphérique. Et ce qu'a fait le PSG avec lui, c'était un manque de cash.
Tout à fait. Ça, c'est un manque de respect.
Karine Galli,
entendu.
C'est dans les deux Karine, Karine. À la question, c'est un manque de respect de la part de l'OM. Vous, vous allez même un peu plus loin. C'est un scandale car c'est un nouvel exemple de la gestion sportive, on va dire, extrêmement bizarre de l'équipe dirigeante.
Moi, le terme manque de respect, ça m'insupporte parce qu'en fait, c'est une formule que tous les footballeurs emploient et le terme respect n'a plus aucune valeur. Donc ça, cette formule-là, je l'enlève. Mais moi, ça me gêne beaucoup. Oui, en termes de compétitivité, en termes de travail que fait Longoria, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, Marseille, c'est devenu un terminal d'aéroport. C'est quand même hallucinant de voir qu'il n'y a plus aucun joueur qui est installé à l'OM. C'est-à-dire que l'un des plus anciens, c'est un joueur qui dure au club depuis 2-3 ans. C'est ça, maintenant, de s'inscrire dans l'histoire de l'OM. C'est-à-dire que maintenant, on a un capitaine, Gigot, j'ai rien contre Gigot, mais qui est arrivé il y a 1 an et demi. Parfois, on a Kondogbia, il est arrivé cet été. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune identité, il n'y a aucune continuité dans ce club. Et ça me pose énormément de problèmes. Quand on voit ce qu'ils ont fait encore cet hiver, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu vends Murillo, ils essayent de te faire croire qu'il y a eu une plus-value, il n'y a que dalle, parce que finalement, ils rachètent un autre latéral pour le même prix, en sachant que Murillo, sur les derniers matchs, était plutôt intéressant. Et là, Klose, bah, on a tous dit la même chose, c'est-à-dire que c'est plutôt une satisfaction. C'est un joueur qui est passé de Lens à Marseille. C'est plus compliqué de s'installer à Marseille, avec la pression, etc. Et on lui dit, maintenant, tu dégages. Ben, non. Parce que déjà, ça va affaiblir l'OM et parce que lui aussi, il a un euro à aller jouer. Et là, Longoria, il a eu pour la première fois des banderoles hostiles envers lui.
Il serait temps de se réveiller.
McCourt samedi soir, et ça devient de plus en plus inquiétant. Moi, je trouve ça scandaleux que Marseille devienne un club vraiment juste de passage et de trading.
Et qui fait fuiter tout ça sur Klos ? Qui informe en sous-main les journalistes pour dire, vous savez, notre problème en ce moment, c'est Jonathan Klos.
Mais merci.
Ah oui, c'est sûr.
On n'est pas né de la dernière pluie, c'est que Longoria est
là. Non, mais le lecteur ne le sait pas forcément. Les gens qui sont informés ne savent pas qu'ils sont manipulés par un homme qui est en train d'échouer et qui désigne un coupable comme ça pour lui. Comme ça, il gagne du temps.
C'est petit. Non, mais ceux qui ont écrit ça dans l'équipe, ils comprennent ce que tu dis. C'est pas, ils sont pas
manipulés. Je parle des lecteurs. Ah, oui. Les lecteurs ne le savent pas, ça.
Mais c'est écrit avec suffisamment de nuances, je pense, pour que les lecteurs comprennent que Longoria.
La voracité ou le côté obsessionnel de Pablo Longoria au niveau des transferts.
Mais parce que c'est son métier de base.
Écoutez, regardez, il est arrivé en juillet 2020, il est comme directeur sportif, puis il devient président de l'OM en février 2021. Depuis juillet 2020, alors je suis allé sur le site Transfermarkt, j'ai regardé le nombre de mouvements. J'entends le nombre de mouvements, achat, vente, prêt, retour des prêts. Donc on est à 4 saisons et on est à 171 mouvements.
Vous avez fallu combien de jours?
Bon, c'était des lignes, 171 lignes. 23 mouvements lors de la première saison, 2020-2021, c'est normal, il était directeur sportif. Après, il passe à la présidence, là, ça accélère un peu. Il y a 42 mouvements lors de la deuxième saison, 54 mouvements lors de la troisième saison. Là, nous sommes dans sa quatrième saison, on est encore à 52 mouvements, mais il semblerait que d'autres joueurs soit vont partir, vont arriver, vont revenir, on va parler.
Mais voilà. C'est peut-être ça que dénonce Karine, qui fait que les supporters sont en colère. C'est
oui, la guerre de triage.
Ouais. C'est le manque d'identification possible, en fait. Parce que 171 mouvements en 4 ans, en fait, vous identifiez à qui ? Vous aimez qui dans ce club ? Le gars que vous allez aimer 6 mois, acheter le maillot, vous dire que c'est un super joueur, en fait, Longoria, on va lui faire un jeu de moto.
C'est un peu le lot du football.
Non, mais là, c'est accéléré.
En accéléré, exactement. Oui, tu vois, en accéléré. Le seul problème, c'est que les résultats ne suivent pas. Crois-moi que mais si.
Comment tu veux que ça suive
si, ah oui, alors c'est d'accord. Mais si j'étais deuxième, crois-moi qu'il n'y aurait pas de problème d'identification ou quoi, puisque les gens, c'est. Non, faut gagner, etc.
Par exemple, l'an dernier, il fait plutôt une très bonne saison, il vient de Porto, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait cet été ? Sur le marché des transferts, tu dégages. Bon, ben finalement, il part pas, donc il est un peu perturbé, il met du temps à revenir. Si tu fais ça avec tous les joueurs, tu pourras jamais avoir des résultats sportifs sur la longueur. Alexis Sanchez, il fait une super saison, il a quand même tout pour plaire aux supporters marseillais, il a une carrière, il est généreux sur le terrain, il est bon. Tu dégages et tu prends finalement Aubameyang. Et en fait, ce n'est que ça.
Et ça te coûte plus cher. Et après, il fait une mise au point, Alexis Sanchez, en disant qu'il n'avait pas demandé une augmentation de salaire ou des choses comme ça, ce que Longoria avait laissé entendre. Voilà. Donc après, disons les choses comme elles sont. Alors,
c'est pas du foot.
Business.
C'est pas du foot. Sûr, c'est
quel est l'intérêt ce n'est jamais du foot. De garder Alexis.
Ce n'est jamais du foot, Didier.
Non. Si tu fais du business, du business dans l'intérêt du club ou tu fais du business dans l'intérêt de ton banquier.
Là, c'est plus dans l'intérêt du club.
Dans l'intérêt de ton banquier déjà. Et ensuite, c'est pas du foot. Si tu me dis, Aubameyang est supérieur, c'est très grave.
Après, faut le prouver parce que là, c'est la fin des haricots.
McCart,
c'est le pigeon de la classe.
Tu peux observer qu'il y a encore plus de mouvements et c'est encore plus fréquent depuis que Longoria est en fait un peu seul. a décidé de tout ça.
Il y a, oui, que Rabolta.
Il n'y a plus de recrutement, il n'y a plus Ribalta.
Ribalta.
Il y a Belta, il y a quand même 52 mouvements en présence de
Ribalta. Oui, bien sûr, mais là, ça va encore.
Moi, j'ai juste une.
Vous voulez la main,
juste pondérer.
Qui défend les puissants.
Je vous rejoins surtout sur le manque de. Enfin, l'instabilité qui empêche d'avoir des résultats et qui empêche de construire quelque chose. Ça me paraît évident.
Non, mais cette instabilité, on la comprenait au début, parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc, il rusait, il faisait des prêts. Après, qu'est-ce que tu veux.
Il a construire quelque chose.
Le gars, il repart, etc. Là, on comprend moins. Au début, il était bon.
Je veux revenir par rapport à la question du manque de respect ou de l'absence de manque de respect. Moi, je considérerais que ce serait un manque de respect si Klose ne partait pas et qu'il ne jouait pas parce qu'il avait refusé de partir. Si, au 1er février ou au 2 février, il est toujours à l'OM et qu'il a refusé d'aller, je ne sais où, au Genoa, à l'Atalanta Bergame ou je ne sais quel club.
Il y a
peu de chances qu'il parte.
Mais de toute façon, il y a peu de chances qu'il parte.
Non, mais il y a peu de chances qu'il parte.
Et puis, il jouera. Ils ne vont pas faire comme Rabiot, il jouera.
Si jamais il était... Longoria dit à Gattuso, je ne veux pas le voir dans le groupe, comme certains l'ont fait dans d'autres clubs,
je trouverais
que ce serait un manque de respect. Mais je pense que ça n'arrivera pas.
Et donc,
je veux juste te dire un truc par rapport à ce que dit Karine, c'est pas je te place sur le marché des transferts n'est pas synonyme du tu dégages tout le temps.
Mais c'est
pas vrai.
Alors c'est un coup de pression.
Mais le manque de respect n'est pas là.
C'est un coup de pression. Pour Damien, c'est un coup de pression. Oui, mais vous entendez comme ça.
Non,
parce que personne n'entend comme ça. Mais
si Longoria dit à Klose, on te met sur le marché des transferts parce qu'on a besoin de faire rentrer 20 millions, ta valeur est au plus haut. Ça, je peux l'entendre. Mais qu'il lui dise ça, qu'il lui dise qu'il le met sur le marché des transferts et que derrière fuite l'idée que en fait Klose s'économise et c'est pour ça qu'on le met sur le marché des transferts,
ça,
ce qui est foncièrement faux, ça c'est moche, c'est
malhonnête.
Ça,
c'est malhonnête. Voilà. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle, Damien. Et donc ça ne peut pas être du respect.
C'est de la manipulation aussi.
C'est de la manipulation, de la malhonnêteté. Si tu mets sur le même plan que le respect, je pense que tu as trompé sur la définition du respect, Damien.
Non mais Damien,
ça m'inquiète sur toi en fait.
Damien, simplement, la direction du club, l'entraîneur, pense qu'il n'est pas bon en ce moment. Ah ouais. Il peut mieux faire.
Ils ont le droit de le penser.
Mais est-ce que c'est votre constat? Parce que.
Moi, franchement, honnêtement, j'ai trouvé bon jusqu'à ce qu'il soit de retour en équipe de France.
D'accord.
Depuis ce dernier rassemblement en équipe de France, depuis le rassemblement de novembre avec l'OM, je le trouve pas bon.
D'accord.
Je le trouve pas bon.
Donc, c'est une raison pour le virer?
Mais c'est pas mon problème, je suis pas dirigeant de l'OM. Moi, je le garderai.
Non, mais Damien.
Je le garderai. Mais c'est pas le problème.
Pour Damien, ils veulent pas le virer, ils veulent le piquer.
Non, non, mais le problème, c'est pas ce que moi je pense. C'est ce que eux pensent. En l'occurrence, c'est pas moi qui paye. Ce sont eux qui payent. C'est pas moi qui gère le club. Ce sont eux qui gèrent le club. Donc, ils font bien ce qu'ils veulent. Ils ont des comptes à rendre à l'actionnaire, éventuellement aux supporters. Mais ils ont pas de. Enfin, s'ils considèrent.
Il leur faudra
ne fait plus partie
même,
du projet pour des raisons
qui leur sont faudra propres.
C'est à eux d'assumer derrière.
Que tu partes du principe que Klose est moins bon depuis quelques mois, je le partage. Et Longoria connaît très bien le foot, donc il peut avoir ce même avis. Mais de là à dire que. Parce que ces matchs sont pas aussi réguliers qu'il a été à un certain moment, c'est devenu la tâche de l'OM. Il faut regarder les matchs de l'OM. Mais il y a des joueurs qui sont vraiment très inquiétants et bien plus inquiétants.
C'est la logique du bouc émissaire, Karine. C'est la logique du bouc émissaire.
S'il n'y avait que des ballons d'or dans son effectif, Jonathan Klose était le point noir, je veux bien, mais ce n'est pas le cas.
Non, mais
Longoria,
sur le niveau de Klose.
Sur quelque chose qui n'est pas le point central du manque.
Donc,
quand tu vois le milieu de terrain qui est tout sauf.
C'est la logique de jeter en pâture.
Justement, puisqu'on va. Moi, il y a un truc qui m'a choqué bien plus que le fait qu'il souhaite se séparer de Klose dans ce papier. C'est le fait qu'il souhaite se séparer de Gueye. Parce que pour moi, Gueye, aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain de l'OM.
Non, là, tu vas un peu.
Ah, bah, de façon conjoncturelle, sur les derniers matchs, c'est le meilleur milieu. Tu Rongier, il joue pas.
Veretout, c'est pas mal, quand même.
Avec Veretout. Bah, il joue, mais c'est meilleur que Kondogbia.
Oui, c'est
meilleur qu'Onana. Bah,
Kondogbia, il est blessé.
Bah, il a joué l'autre jour, il n'a pas été très bon.
Oui, mais il n'est pas à 100%, manifestement.
Ouais, Gueye, il est à 100%, et quand il joue, il est plutôt bon.
Oui, mais enfin, tu as trois milieux de terrain, tu en as un qui est blessé, et l'autre, c'est l'équivalent. Alors, dire que c'est le meilleur.
Damien, quand ça ne va pas, tu allumes des contre-feux. Ça s'appelle la logique du contre-feu, ça s'appelle la logique du bouc émissaire, ça s'appelle la logique de la patate chaude que tu refiles aux autres, et ça permet de, comme ça, qu'on ne parle pas de toi.
J'espère que ce n'est pas un scarabée que tu as sur cette chaîne.
C'est Bréa.
C'est pas un scarabée.
Non, c'est pas un insecte, c'est
pas un beetle.
C'est une pierre. C'est une pierre de l'île de Bréa.
C'est louche.
C'est en Bretagne.
Plus que jamais.
On va donner la parole peut-être à Pablo Longoria, mais je pense que j'ai déjà votre lecture. On va entendre Pablo Longoria. C'était hier en marge de la présentation de Quentin Merlin, la nouvelle recrue de l'OM.
Tu sais pourquoi le scarabée
172 mouvements d'ailleurs, parce que j'avais pas joué sur Quentin Merlin.
Totalement.
Vous allez voir, Pablo Longoria, il envoie une mine. Alors à Klose, mais également un peu l'ensemble de son vestiaire. On y va.
Pour les prochaines heures de Mercato,
S'il y a quelques mouvements, il serait toujours avec l'intention. Et ça, c'est un message fort aujourd'hui que je cherche de donner à tout le monde, d'améliorer ce type de mentalité et d'engagement qu'on a besoin pour finir bien la saison. Parce que le problème, parfois, ce n'est pas footballistique, si on prend beaucoup de matchs. C'est un problème de chercher de donner un quelque chose en plus. Tout ce qu'il a en disposition de faire, il est bienvenu. Tout celui qui n'est pas en disposition de lui donner ses sacrifices en plus, on peut discuter.
Voilà, Je comprends pas très bien. En fait. Longoria, il nous fait une analyse bas du front. En fait, les joueurs ne donnent pas le maximum sur le terrain. C'est ça qu'il nous dit.
Bah, en fait, l'explication des derniers matchs de l'OM, c'est plutôt la mentalité, l'état d'esprit.
D'accord,
c'est pas un problème footballistique.
Vitinha a fait exprès, par exemple, de rater son match. Balerdi a fait exprès d'être fautif sur le but, mais d'égaliser un peu plus tard. Ça n'a aucun sens.
Mais c'est une manière. Il y a une explication qu'en fait, il a envie de masquer. C'est que l'effectif, il est beaucoup trop court. Qu'il y a 7 joueurs qui sont partis, que sans Unai, sans Harit, il n'y a plus personne pour faire le jeu dans son équipe.
Transformer le jeu.
Et qu'en fait, ils ont fait des matchs avec un banc contre Monaco. Le banc, il n'y a pas un joueur qui peut jouer en national, en fait. Donc, à partir de là, c'est lui qui est responsable. Il a bâti un effectif qui est beaucoup trop court. Il n'a pas anticipé la CAN. Il a même recruté. Il y avait besoin d'un joueur offensif. Ils ont recruté un joueur qui était lui-même à la CAN.
Il s'exonère de ses lacunes en disant ça. C'est pas lui qui s'est trompé, c'est les joueurs qui donnent pas assez.
Virginie, c'est vieux comme Vitinha, le monde aussi. Son départ se précise. Voilà.
Les médias italiens, Sky Sport, Sky Italy et Sport Media 7 ont annoncé que le joueur arrivera demain en Italie pour passer sa visite médicale et qu'il va rejoindre le Genoa en prêt avec option d'achat non obligatoire de 25 millions d'euros. Et nos confrères d'RMC précisent même que le Portugais a dit au revoir à ses coéquipiers marseillais aujourd'hui après avoir vidé son casier et que le vestiaire était ému.
Voilà, personne ne reste.
Immense réussite, hein.
Non, mais personne ne reste à l'OM, mais parfois, ça a des bons côtés.
Mais il faudrait nous expliquer en fait comment, parce que moi j'en veux pas du tout à Vitinha, personne peut en vouloir à Vitinha, c'est pas lui qui a fixé son prix.
Non.
Il s'est démené sur le terrain et pour l'instant il est dans une situation d'échec. Mais donc par rapport à ce qu'a Vitinha a fait depuis un an à Marseille, il y a un club qui se dit, il peut valoir 25 millions. Ben non.
Ouais, alors justement, ça m'a mis la puce à l'oreille que Vitinha aille au Genoa. C'est pas forcément une surprise, parce que Genoa, c'est vraiment.
C'est Strootman aussi.
Des grands spécialistes du mercato. Ah oui. Si on dit l'OM, c'est les courants d'air, c'est la guerre du triage et tout ça. Donc Genoa, 15 joueurs sont arrivés cette saison, mercato de juillet, mercato de janvier, sur 26 au total. Et Genoa adore le mouvement, mais pas le mouvement sur le terrain. Le mouvement au niveau justement des mouvements, prêt, retour de prêt, achat et vente. Cette saison, combien ? 96.
Ah ouais.
96 mouvements cette saison pour le Genoa. 46 arrivées, 50 départs. Mention spéciale donc pour le directeur sportif. Les journées datent de 24 heures, mais c'est Marco Ottolini. Voilà, Marco Ottolini.
Il pourrait signer à l'OM dans peu de temps.
Ah bah, 46 arrivées, 50 départs sur une saison. Rappelons pour l'instant le record à battre de Pablo Longoria. C'est 54 arrivées la saison dernière.
Ça appartient pas à un multiclub, le Genoa.
Ça, je me suis pas renseigné.
Jeune Textor est dessus.
Mais 7-7-7, ceux qui ont le Red Star, enfin, je sais plus.
À terminer.
Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Donc, comme je suis pas sûr, je me la ferme.
Ça fait quand même beaucoup de décisions.
Klaus Avant, Sévrac, oui, c'est un manque de respect. Bonsoir, oui. Non, Damien Degore. Dominique ou Damien, qui gagne ce duel, mes petits? On peut afficher les résultats en régie. C'est le Parisien, 70-30. Manque de respect, oui.
C'est
efficace.
Fière,
et Damien, c'est efficacité.
Scarabée.
Et mes amis, on va aller à la CAN, puisque donc, c'est confirmé, c'est officiel. Le Maroc est sorti de la Coupe d'Afrique des Nations. Un succès de l'Afrique du Sud, 2-0, c'est bien cela?
C'est bien cela, mais le Maroc faisait partie des favoris et le Maroc est éliminé ce soir. Il n'y a pas eu de but en première période. Mac Gopa débloque le match à la 56e minute du pied gauche. L'attaquant couvert par Mazraoui est lancé par Zouane et vient tromper Bounou à ras de terre pour marquer son 4e but en sélection. Ils tiennent bon ensuite les Sud-Africains jusqu'à une main de Mvala dans la surface. Pénalty logique pour le Maroc. Hakimi s'en charge mais tape la transversale et Mokoena enfonce le clou derrière dans le temps additionnel. Coup franc clinique, synonyme de qualification de l'Afrique du Sud. Victoire 2-0.
Sachant qu'évidemment en région on commence à chercher, le Genoa est détenu par un fonds d'investissement qui s'appelle le 777 Partner. C'est un actionnaire minoritaire du FC Séville. Voilà.
Ah, ouais, 777, c'est le sponsor.
Vous avez vu mes petits, donc l'élimination du Maroc ce soir. Vous retenez quoi pour vous ce soir? C'est l'élimination du Maroc ou ce péno raté égalisateur d'Achraf Hakimi.
Ça y contribue fortement,
mais. Oui, ça y contribue.
Mais en fait, il y a un tour de table,
arbitrage. Habillage à la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si on a ça. Ah, ça ça, je pense que Karine va adorer.
C'est,
le tube. Non, c'est le tube officieux de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ah, c'est celui.
Ça s'appelle le coup de marteau.
Le national, ça marche pas. Non, la Gims, je crois.
Non. C'est Magic ça. System.
Je sais pas.
Là, c'est coup de marteau.
J'aime pas la musique.
Ce soir, vous retenez quoi? L'élimination du Maroc ou le fait que Hakimi a le moral dans les chaussettes, il va revenir au PSG. Voilà, il a raté un pénalty.
C'est plus du tout la même chose, là.
Le pénalty, oui, c'est.
Ou le pénalty manqué d'Hakimi. Je vous récite.
Parce que j'ai pas envie de taper sur un joueur, mais j'ai peur qu'il revienne avec le moral dans les chaussettes.
Alors qu'est-ce que tu retiens?
Qu'est-ce que tu retiens?
Le moral dans les chaussettes, mais pas son pénalty manqué.
Le moral dans les chaussettes. C'est un concept. Le moral ou le Maroc?
L'élimination du Maroc.
L'élimination du Maroc. Hugo?
Le Maroc.
Le Maroc.
Bonsoir, Mémé.
Bonsoir.
Hakimi.
Hakimi?
Oui, bonsoir.
Eh bien, écoutez, Didier, je crois qu'on va faire un super duel, les petits.
C'est parti.
Je sais pas s'ils sont prêts.
Alors 1-2-3. Alors 1-2-3 Algérie. Bravo.
C'est
1-2-3 Maroc.
1-2-3 Maroc. Alors, vous retenez le Maroc l'élimination, c'est Hugo et Damien qui commencent chez les guillemets.
Allez, Hugo, commence.
C'est un super duel. Je fais une petite pause, puisque la régie ne sont pas prêts.
Oui. Ça tombe bien, parce que Dominique va te dire quelque chose qu'il dit rarement.
J'ai Damien et Hugo
qui retiennent
le Maroc.
Il faut que tu cadres.
Et j'ai Karine Galli et Dominique Serra qui retiennent, on va dire, l'élimination, enfin le pénalty manqué.
Dominique va faire son choix.
C'est assez simple.
Alors attendez. Dominique, je suis perdu. Qui commence, Karine Galli ou le roi Dominique?
En fait, c'est assez simple, mais il faut cadrer les choses comme dirait le président. On va commencer par le talent de Karine et on finira par un peu l'expérience, si ça vous dérange pas.
Ça me dérange pas du tout, en plus, regardez.
Non, mais ça peut te déranger. Non, mais c'est important.
Si
ça te dérange pas.
Comment?
Les couples ne sont pas ensemble,
Karine. Les couples ne sont pas ensemble. On me dit que. Mes petits, vous retenez l'élimination du Maroc. Hugo Guillemet, on y va.
L'élimination du Maroc, évidemment, parce que c'était un des grands favoris de la compétition. On va essayer de ne pas être trop PSG-centré. L'élimination d'une grande nation comme ça, un favori, ça vaut beaucoup plus que le pénalty manqué par un joueur, même si il est parisien. Le Maroc, il nous avait fait rêver au Qatar, c'était il n'y a pas si longtemps. Demi-finale, on les imaginait à un moment presque aller au bout. Donc forcément, les voir sortir si tôt de cette Coupe d'Afrique qui leur semblait promise à eux ou au Sénégal, c'est vraiment décevant.
Gagnali.
Alors bien évidemment, je ne critique en aucun cas Hakimi. Je veux parler des conséquences et j'ai bien peur que on arrive à une malédiction PSG comme d'habitude. On se souvient évidemment de Marquinhos qui rate le tir au but. Tchoup ! Il est mentalement au fond, évidemment. Et là, j'ai peur que Hakimi, qui était excellent avant de partir à la CAN avec le PSG, soit victime de cette même malédiction parce qu'il va être extrêmement triste et touché par cette déception et cette élimination. Mais ce n'est pas une critique envers Hakimi.
Ok, très bien. Mais ça mérite d'être clair. Damien Degor, vous retenez ce soir l'élimination de la sélection marocaine.
Bah oui, parce que des joueurs qui sont éliminés prématurément et qui peuvent avoir une part de responsabilité dans l'élimination, il y en a eu pas mal dans l'histoire et ils sont revenus en club et ça ne les a pas affectés longtemps. Moi, je retiens l'élimination du demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde qui est composé de joueurs, évidemment. Il y a Hakimi, mais il y a aussi Ziyech, il y a Amrabat qui joue à Manchester United. Il y avait des grands joueurs, ça devait être la CAN du Maroc. Et ça s'arrête en huitième de finale de façon assez inattendue face à un adversaire qu'on n'attendait pas non plus. Donc, le Maroc.
Dominique Sévrac,
bonsoir. C'est une CAN assez rocambolesque, sans dessus-dessous. Il y a beaucoup de surprises. Le tenant du titre est déjà à la trappe, le Sénégal. L'Algérie n'a pas fait long feu. Donc le Maroc, c'est une des surprises de plus qui vient se greffer à ça. Et vous me dites que Achraf Hakimi, l'un des meilleurs latéraux au monde, je suis désolé, ça dépasse le cadre du Maroc. Hakimi est un joueur majeur dans le football mondial. C'est un joueur majeur des émissions de l'équipe du soir en France parce qu'il joue au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, la saison s'arrête pas à la CAN. On adore tous la CAN, mais ça s'arrête pas à la CAN. Bientôt la Ligue des Champions.
C'est arrêté. Tous les chronos sont arrêtés.
parce que j'ai trop d'arguments.
C'est le Parisien, il faut le gifler.
Dominique Cévrac et Karine retiennent finalement les conséquences de cette élimination pour Hakimi sur cette saison du PSG.
C'est la malédiction qui continue.
La malédiction. Le Maroc, plutôt. C'est net, c'est le demi-finaliste du dernier mondial pour Hugo et pour Damien. Président, c'est votre tournée, à vous de trancher.
Le Maroc, évidemment. Je ne dis pas qu'Hakimi, c'est un épiphénomène, mais les plus grands ont raté des pénaltys. Il a eu le courage d'aller le tirer, il rate le cadre. J'espère que ça n'aura pas de conséquences pour le PSG. C'est sûr que psychologiquement, ça peut en avoir. Bon, on va peut-être aussi se calmer. Il est important au PSG, mais l'un des meilleurs joueurs mondiaux, il faut raison garder. Non, si Hakimi est l'un des meilleurs joueurs mondiaux, il faut raison garder.
Il y a Klose.
Non,
cite-moi 5 latéraux sont meilleurs que lui.
Ah, alors 5 latéraux, donc tu multiplies par 11 les joueurs mondiaux, parce que ça en fait 60. Parce
j'ai dit un des meilleurs latéraux.
Non, tu m'as dit c'est un des meilleurs joueurs mondiaux quand même, truc, pas carrière latéraux.
Non, c'est vrai, il a raison.
On verra,
de toute façon, c'est dans la boîte.
C'est dans la boîte, oui, non, tu dis un des meilleurs joueurs mondiaux.
Tu as dit ça, Dominique.
Tu as dit ça. C'est ton scarabée, là.
Merci.
Ton scarabée, machin. Mais elle a les Portugaises en sablé. Que tu veux que je ne va pas compter sur Virginie.
Bon, au-delà de ça. De suite avec lui.
Au-delà de ça.
Pas tellement lucide.
Bon, ça suffit.
Au-delà de ça. Le Maroc, c'est terrible parce que l'Algérie, qui termine dernier de ce groupe, franchement. Bon. Hier, le Sénégal. C'est magnifique, la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait, les circonstances, parce qu'ils sont morts, ils sont ressuscités. Bon, et va savoir s'ils ne vont pas aller au bout maintenant. Mais c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais l'Afrique du Sud, ils sont au-delà de la 60e place classement FIFA. Alors, je sais bien que c'est sur un match, je sais bien que ce classement FIFA, mais enfin, si c'est au-delà de la 60e, je crois que Maroc, ils sont 11-12e. Mais c'est vrai, ils ont des joueurs, le Maroc. Et globalement, mais c'était un match intéressant. Mais l'élimination du Maroc, moi, cette CAN, si tu veux, je la trouve très étrange parce que les gros s'effondrent. C'est sympathique parce que des petits ou moyens prennent un peu, tu vois, pas plus gros que le bœuf. Mais y a... Donc, sous cet aspect, c'est intéressant, mais j'ai peur que ce soit quand même un peu un nivellement par le bas. Je suis dans un clair-obscur, si tu veux. Je suis dans un entre-deux. Tu vois, une sorte de passo doble avec cette canne. En tout cas, c'est le Maroc. Le Maroc, là, tu disais. Oui.
On aura dans une demi-heure Hervé Penaud.
Non, mais lui, il va te dire, c'est la plus belle nini, truc de la canne, de l'histoire. Tu connais Hervé, tu connais machin, où sont les femmes, machin.
Non, mais l'idée que petite nation a.
Oui, alors est-ce que c'est un nivellement vers le bas ou vers le haut? Je suis pas sûr, parce que le haut, il n'y a plus de haut, quoi.
Vous avez un doute?
Tout le monde peut battre tout le monde, c'est jamais bon signe.
Ouais, ok.
Bon, c'est jamais bon signe.
Quelques phrases.
C'est sympathique après, au-delà de ça, mais c'est pas la Coupe de France, c'est la CAN, quoi.
Quelques phrases avant le tournoi, Walid Regragui, le sélectionneur qu'on avait découvert au Mondial il y a un an, non, quelques mois. Si le Maroc n'est pas dans le dernier carré, je démissionne.
Ah. Il avait dit ça?
Ouais. Il l'a dit ça en décembre dernier.
Là. Ouais, faut pas dire des choses comme ça.
Qu'est-ce qu'il avait envie de démissionner?
Je sais pas, mais enfin, bon.
Il était peut-être un peu sûr de lui aussi, parce que je sais pas.
Non, là, c'est
mais il a jamais bon.
Pardon.
Il a une équipe de dingue. Enfin, ouais. Maroc, tu vois l'équipe que
ils ont.
À la CAN, souvent avec les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs européens, c'est pas signe de.
C'est pas facile. C'est pas facile.
Non, la CAN avec des joueurs qui jouent dans des clubs européens, c'est pas facile. Surtout quand ça joue en Afrique.
De l'Ouest.
L'Afrique du Sud, il y a une particularité quand même, parce que je me suis un petit peu intéressé à cette équipe et. Ils jouent quasiment tous dans le championnat.
Il y en a qu'un qui joue en Égypte.
Ouais. Mais qui est un très bon championnat. Et d'ailleurs, le meilleur club de ce championnat, le nom m'échappe, mais elle est arrivée en finale face au Wydad.
Kaiser Chiefs.
Finale de la.
Kaiser Chiefs. C'est pas Orlando Pirates.
Non. La Mélodie Sundown.
C'est ça, exactement. Merci Damien.
Demande.
Arrivée en finale de la.
de la Coupe d'Afrique des clubs.
Ouais. Des clubs.
Ouais.
Ça joue très très bien. Il y a beaucoup de joueurs.
C'était un avantage à une époque pour l'Égypte où tous les Égyptiens, de manière générale, ils sont dans leur championnat. Donc ça crée un peu des automatismes.
Mais regarde, en 2008, l'Égypte, ils sont quasiment tous à part Zidane.
Oui. Zidane non, l'Égypte, historiquement, comme ils ont des gros clubs, oui. Et ils en ont gagné 7.
Pardon,
mais.
Les Zambiens de 2012, ils jouent tous sur le continent aussi.
Pardon, mais sur le Maroc avait fait une performance à la Coupe du Monde. mais en laissant le jouer à l'adversaire.
Ah oui, là, il fallait faire un peu de jeu.
La Coupe d'Afrique des Nations, c'était eux les gros. Et c'était eux qui devaient faire le jeu.
C'est pas pareil.
Est-ce que ça pose un problème sur le logiciel de Regragui et un problème sur le niveau de
la... C'est plus facile de défendre que de créer, ça c'est sûr.
Ils ont été en difficulté en phase de poule, à part le 3-0 contre la Zambie, mais contre la RDC,
c'était pas
partout. Le dernier match, je ne sais plus contre qui, il y a 1-0, mais ils sont dans le dur en permanence parce qu'ils doivent construire.
Dans quelques minutes, à propos d'Hakimi, Dominique Cérac a-t-il dit qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde ? Il fait partie des meilleurs latéraux du monde.
Poste. Il a dit ça ?
Est-ce qu'il a dit meilleurs joueurs
ou latéraux ?
Alors, qu'est-ce qu'il a dit ?
Dans quelques minutes,
on saura. On saura.
La vérité va jaillir du replay dans quelques minutes. On recule pour ça tout de suite. Le Maroc éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations, sorti par l'Afrique du Sud ce soir sur le score de 2-0. La première action du futur ex-sélectionneur Walid Regragui, si je ne suis pas dans le dernier carré, je démissionne, c'est ce qu'il a déclaré en décembre. Virginie, qu'a-t-il dit après cette élimination ?
Voilà ce qu'il déclare ce soir. On est très déçus. On était ici venus pour gagner la compétition. On était prévenus qu'il y avait beaucoup de surprises. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas. J'assume la responsabilité. On va revenir plus fort. On va bien réfléchir à l'avenir. J'avais dit que cette équipe se devait d'aller en demi-finale. Je vais m'asseoir avec mon président et on va bien discuter. Moi, en tout cas, je ne me cache jamais. Aujourd'hui, j'ai échoué, donc il faut assumer. Parfait.
Ah. Oui, mais ça ne veut rien dire, du coup.
Il aurait pu dire « je démissionne ». Là, il aurait pu prendre gratter un truc.
Là, laissez-moi une deuxième chance, quand même.
Ouais. Oui, ben bah, oui.
Et alors, il a pu dire quelque chose sur le coup.
Reconnaît quand même
qu'il est totalement fautif. Je veux dire, il n'est pas exactement dans le même discours.
Non, mais franchement, dire ces choses-là, que le président le dise... Tu sais, comme des fois, le dernier carré, ou le dernier truc. Mais l'entraîneur, pourquoi dire ça? Surtout, c'est enflammé, tu sais, que tu peux être... C'est peut-être enflammé avec cette troisième place.
La passion. En général, les grandes années de Noël Le Graët, c'est le dernier carré, prolongation automatique. En général, c'était ça.
Avec Le Graët,
c'était un peu comme on voulait. Hein.
Oui, en effet.
C'est pas parce qu'il n'a jamais été éliminé au premier tour.
Dominique,
il y a un huitième de finale.
Dominique, c'est... Alors, Hakimi... fait partie des meilleurs joueurs mondiaux ou fait partie des meilleurs latéraux du monde.
Oui.
Moi j'aime la justice. Hein, comment ?
Moi j'aime la justice.
Alors qu'est-ce que
si je me suis trompé, je veux un gage. Et si j'ai raison, je veux un gage.
Ouais.
Si j'ai raison,
je veux un gage.
Ouais. Et si j'ai raison, je voudrais une récompense.
Une récompense.
Bah, si j'ai raison, je voudrais que.
Mais il sait qu'il a raison.
Je voudrais que le président me récompense de quelque chose. Et si j'ai tort.
On balance ce truc dans la gueule.
J'ai tort.
Ça plaît, Dominique, c'est
sympa comme récompense, dis-moi.
Bah, c'est une récompense.
Achraf Hakimi, l'un des meilleurs latéraux au monde, je suis désolé, ça dépasse le cadre du Maroc. Hakimi est un joueur majeur.
Didier. Mon drame, c'est que j'écoute pas.
C'est vrai que Didier, tu n'écoutes pas.
Je n'écoute pas.
Le président, je trouve que c'est un peu.
C'est vrai. Bon, le président, en général, il écoute pas.
Dominique, la récompense du président, c'est quoi?
Oui.
La récompense du président.
Tu veux que je te donne
de l'argent.
On va en discuter tout à l'heure.
Bon, ok.
Tout à l'heure. Mais même l'un des meilleurs latéraux du monde. Bah, non, mais en disant ça, tu laisses entendre que c'est un joueur incontournable. Ça va.
J'ai l'impression qu'on a gagné. Hein.
Attendez, parce que l'élimination du Maroc ne correspond pas à ce qu'avait dit Dominique Cévrac qui a gagné. C'est quoi le truc?
Ah non, c'est l'inverse.
Oui, non, mais attendez, c'est 90.
Non, mais changez les noms.
C'est l'élimination du Maroc qui gagne.
Évidemment. Donc, ton un des meilleurs latéraux de machin, tout le monde s'en fout. Quoi.
Les gens n'écoutent pas.
Les gens s'en foutent.
Donc pas de récompense.
Donc aucune récompense.
Aucune récompense.
90%, aucune récompense.
C'est truqué.
Aucune récompense. Ah bah oui. Jamais il y a eu ça.
Tiens, mes amis, il revient le débat Mbappé dans l'équipe du soir. La star française fait aujourd'hui la une du quotidien madrilène. As avec le titre, le Paris Saint-Germain presse Mbappé. Le quotidien espagnol affirme que le joueur communiquera au plus tard dans 2 semaines sa décision de prolonger ou pas au Paris Saint-Germain. Mbappé annoncerait sa décision aux alentours du 15 février, en tout cas au plus tard. Est-ce trop tôt? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un nouveau classico dans l'équipe du soir.
Il y a que des duels.
Mais oui, mais
c'est interdit.
On a tonton Dominique et tata Damien.
La vérité éclate enfin.
Voilà. Et Damien, vous avez répondu non, c'est pas trop tôt. Dominique, vous répondez oui, c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, Dominique, vous allez commencer.
Comme vous voulez.
C'est, ouais, c'est oui, pourquoi c'est trop tôt?
Non, mais écoutez, le 15 février, on sera donc, si je sais compter, même si en maths je suis pas très fort, le lendemain d'un huitième de finale. Allez, contrairement à ce qui se dit sur ce plateau en général, notamment par le président ou d'autres, Kylian Mbappé, il aime certes les records, il aime laisser une trace dans le football, mais il s'inscrit dans un collectif. Il va pas au milieu du guet, c'est-à-dire même pas au milieu du guet, à 3 semaines d'un match retour et d'un huitième de finale retour, commencer à tirer la couverture à lui en disant « mon avenir, c'est ça ». Donc c'est pour moi, c'est impossible, c'est un problème et c'est trop tôt.
Damien, c'est pas trop tôt, pourquoi?
Bah, jusqu'au 15 février, il peut le dire avant, hein, il peut le dire le 3, le 4, et si sa décision est prise, je vois pas pourquoi il le dirait pas. Pourquoi il ferait traîner en longueur un feuilleton qui peut effectivement parasiter l'actualité du Paris Saint-Germain? Qui lui reprochera de dire je veux partir au Real Madrid, je veux aller au Real Madrid? Après ce qu'il a fait au PSG, qui va lui reprocher? Qui peut lui reprocher son investissement? Si derrière il qualifie le PSG contre la Real Sociedad, il aura mis un terme au feuilleton. Et le PSG continuera d'avancer avec lui jusqu'au mois de juin, sans lui après, mais le PSG pourra préparer la suite.
Ok, il vous reste 7 dixièmes de seconde, il va falloir être rapide, mais très rapide.
Tu es bien naïf, Damien, de penser que personne ne lui reprochera.
Une seconde pour Damien sur la dernière saillie de
Dominique. C'est sûr qu'avec des gens comme toi, il y aura peut-être des reproches.
De ma faute, bientôt.
C'était pas le journaliste qui le jugeait, c'était l'homme.
C'est l'homme.
Je sais. C'est que des attaques à Dominique.
C'est un coup bas. C'est la dernière fois le latin. Dominique Sébrac face à Damien Degore, cite l'équipe. Le patron.
C'est la seule langue que je maîtrise.
Avait penché pour Dominique lors du premier truc, mais là.
Moi, je pense que As, ils te disent le 15 février, demain ils vont te dire le 28.
Non, c'est une fourchette. Hein.
Ah oui,
c'est une fourchette.
Les fourchettes de l'As, moi je.
Oui. C'est entre le 1er janvier et le
31 décembre.
On ne juge pas de la véracité de l'info, on fait comme si elle était vraie.
Ah, on fait comme si elle était vraie. Bon, déjà, ça c'est quelque chose. Le problème, c'est que le timing ne sera jamais bon. Parce que tu te qualifies pour les quarts de finale.
Paf. Donc là, après,
quarts de finale, ils ne sont pas très loin. Alors si tu le fais avant, on va dire que tu démobilises les troupes. Si tu le fais après, alors c'est pas loin de la demi-finale. Et si, alors il va falloir attendre la finale et que tu l'aies gagné ou perdu. Mais enfin, au moins la finale. Enfin, il va falloir attendre l'élimination.
Vous nous dites votre théorème, c'est tant que Paris est qualifié en Ligue des Champions, silence radio.
Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc, je serais plutôt pour Dominique. Ouais. Je pense que c'est trop tôt.
C'est sa récompense.
Non, mais qu'on en finisse.
C'est la récompense.
Ah, qu'on en finisse. Le point du président.
Qu'on en finisse parce que t'en as marre.
Non, mais.
Voilà. Mais c'est pas ton timing qui compte, c'est le sien.
Non, mais je sais.
Bah, et pourquoi
sur ce plateau, ce qui compte, c'est mon avis, quoi.
Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Après, Kylian peut venir.
Il y a de l'ego. C'est du PSG qui compte, non?
Ah non?
C'est aussi l'intérêt du PSG qui compte, parce qu'il faudrait qu'on sache, oui, non, merci, au revoir, bravo pour tout ce que tu as fait, on continue. Mais si, par exemple, il s'en va...
Parce que s'il leur dit maintenant, ça change quoi?
Ben, le PSG doit continuer à travailler pour d'autres pistes et vraiment les
activer. C'est maintenant qu'ils vont recruter son successeur, là, Karine?
Ben, c'est-à-dire que là, ils doivent travailler, déjà. J'espère qu'ils ont des pistes pour potentiellement trouver l'attaque du PSG sans...
Tu penses que le club est paralysé en attente de la...
Non,
de la
je pense qu'ils travaillent.
Bah, tu vois.
Bah, alors. Effectivement,
bah, voilà,
c'est quand même mieux de pouvoir savoir réellement si ta tête de gondole, qui te coûte une fortune, donc qui t'oblige à sortir des sommes énorme chaque année, sera là ou pas l'an prochain, ça change ton mercato.
Non, mais ça je suis d'accord avec toi. Mais l'idéal, c'était de le dire le 5 janvier, quoi, si tu veux. Tu étais encore assez loin de la Real Sociedad. Là, tu peux pas le dire le lendemain du match aller. Alors, on va parler que de ça jusqu'au match retour. Alors là, pour parasiter, tu vas parasiter.
Hugo Guillemet demande audience. Regardez.
C'est bon
parce que vous aviez bien commencé, président, en disant. Il n'y a pas de bon moment, en fait. Le timing, il est pourri, quoi qu'il arrive. C'est un peu ce que tu as dit au départ.
Oui.
Voilà. Et en fait, je suis assez d'accord avec ça. Mmh. Le seul bon timing, ça serait si sa décision, comme tu le disais bien d'ailleurs, est de rester.
Et de rester.
Là, tous les timings sont bons.
Tous les timings sont bons.
Mais sauf qu'on imagine un petit peu qu'il va dire qu'il va partir. Bon, c'est la tendance.
C'est la tendance.
Voilà. À partir de là, il n'y a pas de bon timing. Et quand il n'y a pas de bon timing, bah, le plus tôt est le mieux.
Oui. Oui.
Parce qu'il faut en finir.
Non, mais il peut pas le 15, quoi, je veux dire.
Non, mais il peut là, demain.
Non, alors,
demain.
Tu le fais. Tu
à 2 semaines du match,
ce soir, non, il appelle l'équipe du soir.
À la limite, tu le fais le lendemain de ta qualification à la Sociedad ou malheureusement de l'élimination. Ah ben je suis désolé, mais l'élimination prendra beaucoup de place. Oui. Après Mbappé, à la limite, ça permettra de mettre l'élimination un peu de côté. Si tu es qualifié, attends la fin du match retour.
Didier, il faut avant, parce qu'au moins, la Ligue des Champions n'a pas de conséquences. C'est quand sur cette décision. Si il dit au mois de mars, là, quand il y a le retour, je m'en vais.
Oui.
Tu nous plantes pour la suite de la compétition. Ou tu nous plantes alors qu'on a été éliminé. Donc, dans tous les cas, ça sera toujours.
Bah donc, c'est pareil maintenant.
Le fait qu'on ne sache pas, ça
le fait qu'on ne sache pas, ça paraît. On n'a pas encore joué la Real Sociedad.
Si, dis, je m'en vais.
Mais c'est dans deux semaines. Ça veut dire que pendant deux semaines, ça va être l'enfer.
Pas tous en même temps, Karine.
Non. Mais non, mais je le dis maintenant, comme ça, on sait.
D'accord. Après Paris.
Après Paris est éliminé.
Et après, Paris est éliminé.
Ça sera de la faute de Mbappé.
Ça ne sera pas de sa faute. Mais Paris est éliminé. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi ce que tu dis le lendemain. Dis-moi ce que tu dis le lendemain. Je sais ce que tu vas dire le lendemain. Mais si, je connais l'histoire.
Nous, on veut savoir et qu'on en finisse. C'est que le PSG puisse travailler avec lui ou sans lui.
Quand t'arrives pas à dormir.
C'est ça le plus.
Ça a parasité toute la saison.
Moi, ça m'empêche pas de dormir.
Et toute cette saison aussi, parce qu'on ne sait pas. En fait, il faut juste savoir.
Voilà.
Préparez-vous à ce que les joueurs soient en fin de contrat, les gars. Parce que sinon, si vous paniquez au moindre truc.
Je ne panique pas.
Là, c'est quand même Mbappé, en fait, si tu veux. C'est pas.
Dominique et Damien, je peux vous isoler. J'ai une question parce qu'en fait, avec ce feuilleton relancé par As, j'ai relu l'interview de Nasser Al-Khelaifi de l'équipe datant du 9 janvier. Alors, il était cuisiné. Au sujet de la prolongation, Nasser nous dit « Nous sommes en contact régulier sur le sujet », donc avec Mbappé, le clan Mbappé. Nasser affirme aussi être au courant du calendrier de la décision du joueur, mais cela, je le cite, « reste entre nous ». Il est bien au courant, il se parle tout le temps, donc
c'est pas
ils
possible
se sont
au courant.
Et donc ils se sont.
C'est quand même un menteur, c'est un menteur professionnel, mais c'est pas impossible qu'ils soient au courant.
D'accord. Ok. Est-ce que vous avez les mêmes échos? Est-ce que Nasser est au courant de la décision et de la date de la décision?
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien.
Rien du tout.
Mais je suis quand même surpris que Kylian Mbappé et son entourage mettent dans la confidence Nasser de leur calendrier et des échéances à venir après les deux étés qu'ils ont vécus. Voilà, c'est tout.
Oui, ok, d'accord.
C'est pas possible que ce soit une déclaration pour faire le patron, quoi. Je sais le calendrier, mais en fait, il n'en sait rien du tout.
D'accord.
Comme ça donne la
posture.
Que...
Posture.
Et voilà.
Posture. Revenons à As. En cas de départ de Kylian Mbappé, Luis Campos travaille sur un plan B. Il y a trois noms qui sont sortis. Raphaël Léao, Victor Osimhen, Erling Haaland. Est-ce que ça aussi, c'est des pistes qui vous remontent aux oreilles? Le plan B est travaillé par Luis Campos.
Il faut espérer, oui.
Oui, bah non, là, la vie, votre action.
Non, non. Non, puis de toute façon, Léao, Mbappé, si oui, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même monde, en fait.
Oui, Osimhen.
Après, par exemple, Erling Haaland, c'est compliqué parce que.
Bah, bon courage.
Paraît-il qu'il a une clause libératoire qui vaut s'il part à l'étranger, ce qui n'a jamais été confirmé. Si c'est le cas, effectivement, Paris peut se mettre dessus. Mais si ce n'est pas le cas, jamais, jamais de la vie, le Manchester City ne vendrait Erling Haaland au Paris Saint-Germain.
T'oublies la volonté du joueur aussi.
Non, mais peu importe la volonté du joueur, il est sous contrat.
Bah oui, mais s'il y a une clause et que Paris arrive à l'acheter, joueur, je ne pense pas qu'il va vouloir aller au PSG.
Ah, mais ça, non, mais oui, il y a aussi la volonté. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'état actuel, on a vu avec Bernardo Silva qui voulait venir au PSG cet été, jamais City ne l'aurait laissé partir à Paris.
Les trois noms, Mémé, c'est bidon, parce que de toute façon, pour remplacer Mbappé, il faudra plusieurs joueurs.
Mais oui, c'est
donc
pas
il n'y a pas un joueur. Vous prenez Mohamed Salah, vous prenez Osimhen.
Tu rejoins ce que dit Karine. S'il faut plusieurs joueurs, il faut bien préparer à l'avance. Donc il faut.
Bah, tu t'y prépares.
Il faut réfléchir à la
situation. Mais tu t'y prépares. Bah oui, si t'es fébrile, change de métier si t'es fébrile.
C'est pas comme ça.
Mais c'est pas une question d'être fébrile ou pas. C'est qu'en fait, l'arrivée d'un.
Là, vous pensez que Liverpool connaît son nouveau entraîneur là?
Non, mais enfin, moi, c'est une énorme surprise ce qui s'est passé à Liverpool.
Non, mais tu penses que Liverpool connaît son nouveau entraîneur? Bah non, bah voilà.
C'est évident qu'il ne va pas le connaître. Il était engagé jusqu'en 2026. Il a décidé finalement de partir. Mais sauf que le PSG, vu tout ce qu'ils ont vécu quand même, ça serait bien qu'ils puissent travailler un petit peu plus sereinement. Et je suis désolé, un joueur par exemple, qui est Mbappé ou pas, ça change aussi son envie potentiellement de venir ou pas, tout simplement.
Bah oui.
Donc il faut savoir, c'est tout.
On a un nouveau message.
Oui, on a un message, c'est pas la pub. On a un message d'un supporter des Reds qui demande, qui vous pose donc tous la question en plateau. Depuis l'annonce du départ de Jürgen Klopp, quelles sont les chances de voir Mbappé à Liverpool?
Damien, c'est souvent votre truc en disant il y a Paris, ok, il y a le Real. Et je me souviens qu'il y a deux semaines.
Non, mais. C'est pas mon truc, c'est l'effet.
Il y a deux semaines sur le plateau en disant il ne faut pas négliger la piste à Liverpool.
Il y a deux semaines, Klopp était entraîneur de Liverpool.
Elles ont chuté.
Oui, mais bon, si Xabi Alonso, il connaît le football aussi, Mbappé, il regarde un peu ce qui se passe.
Oui, mais il y avait la présence d'un manager, ça compte quoi. Ça compte.
Après, ils avaient une relation, ils avaient parlé, Klopp et Mbappé.
Oui, je pense qu'ils sont à Monaco, oui.
D'accord.
Beaucoup d'informations dans le papier de As, et là encore, Damien et Dominique, au courant, pas au courant, c'est exactement Mbappé. Donc, l'Oral a déjà soumis une offre au clan Mbappé proposant 30 millions d'euros bruts par an de salaire, bien en deçà des 72 millions d'euros bruts qu'il touche à Paris. Est-ce que c'est les chiffres également qui vous remontent que vous avez sur le contrat du Real?
La seule information que j'ai, c'est que le contact n'a jamais été interrompu entre le Real et la partie Mbappé.
Mais pas de pesetas.
Pour la précision des 30, pas 30, ça j'en sais rien. Je suis pas un homme d'argent.
Ah oui, mais c'est important quand même.
Ça fait une petite différence entre 30 et 60 points.
Dans quelques minutes, on reviendra du côté de la sensation de la soirée, donc l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations du Maroc. Et on sera en contact avec l'envoyé spécial de l'équipe.
L'excellent envoyé
spécial. L'excellent. Hervé Penaud. Eh oui, Hervé Penaud. Avec peut-être un petit débat entre vous, Didier, sur le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que vous avez.
Ah, mais la question, il va te dire ce que tu as dit.
Oui, allez, à tout de suite.
Je sais ce qu'il va nous dire, oui, bien sûr.
À tout. Mbappé annoncera sa décision au plus tard le 15 février prochain, sa décision de rester ou pas au Paris Saint-Germain. Est-ce trop tôt? Un duel était proposé entre Dominique et Damien. Dominique, je ne sais pas ce qui se passe avec le public ce soir de l'équipe du soir, mais
ce qui
c'est
se passe,
la pierre peut-être.
Ce qui non, se passe c'est avec le président.
Il a fait 10% duel d'avant.
C'est le premier duel, c'est le respect. C'est ça ce soir, le thème c'est le respect. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui n'aime pas le respect.
Je sais pas, ça sort comme ça, je sais pas où vous trouvez vos trucs. Il est minuit, le minuit info est activé avec la formation principale, l'élimination du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations. Virginie, les images.
Le Maroc qui faisait partie des favoris et le Maroc qui sort ce soir. Il n'y a pas eu de but en première période. Le match s'est débloqué à la 56e minute grâce à Mac Gopa et son pied gauche. L'attaquant couvert par Mazraoui est lancé par Zouane et vient tromper Bounou à ras de terre pour marquer son 4e but en sélection. Ils tiennent bon ensuite les Sud-Africains jusqu'à une main de Mvala dans la surface à la 82e. Pénalty pour le Maroc. Hakimi s'en charge mais trouve la transversale. Mokoena enfonce le clou derrière dans le temps additionnel. Coup franc clinique, synonyme de qualification de l'Afrique du Sud. Victoire 2-0.
Et puis une réaction de Walid Regragui au mois de décembre. Il avait dit « Si le Maroc n'est pas en demi-finale, je démissionne ». Ce soir, on est revenu un peu, il est revenu un peu sur les déclarations. Mais a tenté de gratter quelque chose, j'ai l'impression.
Il assume, mais il tempère. On est très déçus, on était venus ici pour gagner la compétition. On était prévenus qu'il y avait beaucoup de surprises. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas. J'assume la responsabilité, on va revenir plus fort. On va bien réfléchir à l'avenir. J'avais dit que cette équipe se devait d'aller en demi-finale. Je vais m'asseoir avec mon président. Nous allons bien discuter. Moi, en tout cas, je ne me cache jamais. Aujourd'hui, j'ai échoué, donc il faut assumer.
Un petit peu plus tôt, c'est le Mali qui s'était qualifié face au Burkina Faso.
Et le premier but arrive très très vite. Vous allez voir, c'est un petit peu n'importe quoi. On a Amari Traoré à droite qui centre. Le ballon est coupé de la tête par Aïdara qui touche le poteau. Et là, le défenseur Edmond Tapsoba loupe totalement son dégagement. Ça part en pleine lucarne gauche. Sinayoko double la mise à la 47e. Bien lancé dans le dos de la défense à la limite du hors-jeu. Mais ça passe et ça termine entre les jambes du gardien. C'est son troisième but dans cette CAN. Troisième but aussi pour Bertrand Traoré. Le Burkinabé réduit l'écart sur pénalty à la 57e. Mais ce sont bien les aigles du Mali qui valident leur ticket. Ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient plus atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il a fait 13 CAN pour l'équipe. C'est le journaliste et l'envoyé spécial de l'équipe Hervé Penaud. Hervé est connecté. Bonsoir Hervé.
Mais bonsoir à vous tous, du respect, je demande du respect, mon point d'intervention.
Ah, vous étiez connecté, vous avez déjà commencé un peu à écouter les propos notamment de Dominique. C'est vrai que ce soir, l'actu, c'est que le Maroc est éliminé. Vous avez vu le match. Pour vous, est-ce une élimination logique ou cruelle?
Assez logique, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, pour tout dire. Ils venaient avec son statut un peu de grand favori. Enfin, c'est une équipe qui avait un petit qui cherchait simplement à défendre son camp, et ils n'ont jamais pu enclencher quelque chose de positif. Alors il y a ce pénalty évidemment raté, mais qui est un pénalty, et ils ont eu assez peu d'occasions au final. Le gardien adverse n'a quasiment rien eu à faire, et puis une ou deux fois, les Sud-Africains, Bounou a dû s'interposer, donc non, pour moi ça me paraît assez logique, il n'y a pas eu d'ultra-domination marocaine. C'est surtout une grosse surprise, oui et non, parce qu'on sait qu'ils ont toujours des difficultés, les équipes maghrébines en général, et le Maroc particulièrement, puisque imaginez qu'en Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc n'a remporté qu'un seul match à élimination directe, un seul depuis 2004. Soit ils sont éliminés en phase de poule, soit ils sont éliminés juste au début de la phase d'élimination directe. Donc c'est vraiment quasiment classique chez eux.
Hervé, les quarts de finale sont désormais donc connus, puisque c'était le dernier huitième de finale. On va regarder l'arborescence avec vous, Virginie. Dans le haut du tableau, on le fait à deux. Non, bah, vous le faites comme ça là.
Bon, comme vous voulez, mais. Je peux y aller. Bon, j'y vais. Le Nigeria affrontera l'Angola. Le Cap-Vert sera face à l'Afrique du Sud. Le Mali contre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo affrontera la Guinée.
Quelle équipe vous a fait la meilleure impression? Question à Hervé Penaud, mais question également au chroniqueur de l'équipe du soir. Habillage, le coup de marteau. C'est cette chanson qu'on entend beaucoup sur le continent africain.
Comment? C'est Magic System?
Non, c'est pas Magic System. C'est Tamsir. célèbre artiste et son collectif.
Bien sûr.
Je peux pas tous les nommer parce qu'on a une émission jusqu'à une heure. Pour vous, la meilleure impression, c'est quelle équipe, quelle nation?
Le Nigeria.
Le Nigeria. Un point pour le Nigeria. Damien.
Et ben, un deuxième point pour le Nigeria. Et Hervé Penaud peut en témoigner, ça fait depuis quelques temps que je lui dis.
Ok. Hugo, le Nigeria aussi?
Cabo Verde.
Ah, le Cap Vert. Dominique.
Alors, c'est pas la meilleure impression, mais c'est la Côte d'Ivoire.
Ah, c'est pas la meilleure impression.
En fait, il répond pas à la question.
C'est pas la meilleure impression.
Lui, voilà, il est tranquille.
Vous voulez un peu un pronostic.
En cabine, quoi. Il commande des
matchs. Didier, vous avez un nom, une nation qui vous a épaté ou pas? Vous êtes perdu. Vous êtes un peu paumé, hein. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein.
Ouais, j'ai l'impression que tout le monde peut battre un petit peu tout le monde. Et l'histoire du football montre que quand tu es un miraculé comme ça, tu vois, comme l'Euro 92, le Danemark n'est même pas invité à la fête. Ils sont invités une semaine avant. Boum, ils gagnent l'Euro. Il y a des tas d'histoires comme ça. Coupe de France au premier tour, tu gagnes au tir au but, après tu vas gagner des matchs incroyables, et ou l'Italie en 82, tu vois, qui est nul, qui fait que des nuls, et puis après il tombe dans le groupe de la mort.
Vous êtes très sévère ce soir, vous. Hein. Vous êtes très sévère. C'est la pierre qui vous a. C'est la pierre de vous.
C'est la pierre. C'est pour. Il y a un scarabée.
Il y a un scarabée. Donc Côte d'Ivoire pour Didier, Côte d'Ivoire pour Dominique.
Je me dis que c'est trop beau pour la Côte d'Ivoire ce qui s'est passé, et que sur leur lancée et relâché, ils sont morts, quoi, je veux dire. Quand tu es miraculé comme ça, tu es normalement inarrêtable. Et même si le Nigeria peut-être est un peu plus fort dans les faits, c'est une canne tellement spéciale que je vois bien la Côte d'Ivoire.
Hervé, deux voix pour le Nigeria, Galli et Degore, une voix pour le Cap-Vert, Guillemet, deux voix, Roustan et Sévrac pour la Côte d'Ivoire. Et vous, sur place, quelle est l'équipe pour vous qui vous a fait la meilleure impression?
Qui va gagner, quoi?
Non, c'est pas ça la question.
C'est un peu ça.
Huitième. Alors là, franchement, honnêtement, l'équipe qui a fait une grosse impression, c'est par exemple l'Angola qui a fait une très bonne impression, mais je pense pas qu'ils iront. Le Nigeria, grosse équipe, avec pour moi le joueur qui m'a fait la plus forte impression, c'est-à-dire Osimhen, absolument phénoménal. Hein, incroyable les efforts qu'il peut produire sur un terrain. Mais alors, je vais aller du côté quand même des signes du destin, on va dire d'une certaine manière, et je me dis, mais cette Côte d'Ivoire qui était morte. Il n'existait plus, ah, elle était détruite, totalement détruite. Imaginez des types qui étaient en train de pleurer tous, il y a une semaine, pendant trois jours, ils ne savaient même pas ce qui allait se passer. Oui. Ils prennent le Sénégal, au bout de cinq minutes, vous êtes mené 1-0. Donc logiquement, c'est fini, il n'y a plus de match, c'est terminé. Mené 1-0 par la meilleure équipe d'Afrique, et puis vous sortez d'une semaine folle, et finalement, ils se relèvent de ça. Alors je me dis, pourquoi pas, mais ça serait pas mal d'une finale Nigeria contre Côte d'Ivoire. En tout cas, ça ferait... On referait le match, quoi, en quelque sorte.
Mais bête, Hervé, c'est que si la Côte d'Ivoire va en finale, c'est qu'elle élimine le Mali, et que le Mali, c'est une super équipe aussi.
Ah oui, mais oui, bon...
Absolument, non, mais le Mali... Mais il faut bien éliminer des équipes, ouais. Et c'est que le Mali, on peut se dire qu'il y a peut-être un peu moins de potentiel. Alors attention, ça va être un match chaud, parce qu'ils vont jouer à Bouaké, où il y a une très forte communauté malienne. Malienne. D'ailleurs, c'est peut-être la deuxième ville malienne, hein, qui existe, donc il y aura beaucoup de monde, ça va être très tendu. Je pense que Côte d'Ivoire a profité aussi, quand même, faut pas l'oublier, d'une incroyable faiblesse du Sénégal, parce qu'en menant comme ça, j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas même mis un système à quatre défenseurs, mis un milieu de terrain supplémentaire, parce qu'on a laissé jouer finalement un joueur comme Seri, qui lui a plus de mal à trouver le rythme, mais il a fait à peu près ce qu'il voulait, parce qu'il faut dire, personne ne venait le charger. C'est assez surprenant cette manière de jouer du Sénégal, ce ne sera peut-être pas le cas du Mali, qui a un très très bon milieu de terrain, peut-être le meilleur milieu de terrain de cette CAN.
Mais d'un autre Guillou. Côté...
Académie Guillou. Alors Bissouma a été blessé, donc il n'a pas joué. Mais on va voir ce qu'il peut revenir, c'est un joueur d'un très fort niveau aussi.
Hervé, je vous coupe parce que c'est pour des raisons, on va dire, un peu irrationnelles que vous donnez la Côte d'Ivoire.
Par rapport à sa famille aussi.
Relation. Dans le rationnel, c'est notre ami Damien. Vous votez le Nigeria. Et depuis déjà quelques temps, qu'est-ce qui fait que vous le voyez émerger, là, sortir?
Et moi, je trouve que cette équipe est hyper bien équilibrée. Je trouve qu'elle est justement à l'abri de mauvaises surprises. Elle n'est pas hyper spectaculaire et pas toujours formidable à regarder jouer. Mais elle gagne 1-0, un but d'écart, deux buts d'écart. Mais elle est hyper disciplinée. Il y a Osimhen, comme l'a dit Hervé, qui est formidable. Et il est entouré de joueurs qui jouent pour la plupart en première ligue.
Je croyais qu'il fallait jouer dans le pays concerné, alors.
Pardon ?
Tout à l'heure, tu nous avais fait une théorie.
Je t'ai pas fait une théorie. Je t'ai dit que ça pouvait aider, mais t'écoutes pas. Qu'est-ce que je te dis ? C'est pas mal.
Quand j'écoute, c'est pas terrible.
je te dis que l'équipe du Nigeria est une équipe hyper bien organisée. Et honnêtement. Des joueurs qui sont rigoureux, qui sont un peu européanisés d'une certaine manière.
Ils le sont tous européanisés.
Et franchement, je la trouve hyper solide, quoi. Vraiment hyper solide. Beaucoup plus solide que le Maroc, par exemple.
Hervé, on profite de la technologie pour ne faire des petits débats. Didier, avant la pause, était un peu paumé par cette Coupe d'Afrique des Nations, avait du mal à la jauger. Didier, je vous fais le résumé. Que les petites nations soient capables de battre les grandes nations, il craint d'un nivellement par le bas.
Moi, je la trouve sympa. Je trouve qu'il y a des matchs agréables. Je n'ai pas tout vu, hein, aussi comme toi, Hervé. Donc, il y aura un jugement sans doute qui a plus de valeur. Mais je trouve qu'il y a... C'est jamais bon signe, quoi, si, en plus avec 24 équipes, si tout le monde peut battre tout le monde, tu vois, si tout est irrationnel... C'est sympathique comme ça, une fois, il y a eu du suspense, il y a eu des matchs dans les arrêts de jeu où il s'est passé des choses, tu es premier, tu es éliminé, etc. Donc au niveau émotionnel, c'est pas mal. D'un point de vue footballistique, toi, tu trouves que c'est une grande compétition, ce auquel tu assistes ?
Ah oui, depuis le début, oui. Je trouve que franchement, j'ai rarement vu une compétition de ce niveau-là. Alors c'est vrai que le suspense ajoute, hein, à la qualité, parce qu'il n'y a pas que la qualité technique, il y a aussi la qualité émotionnelle. Et de ce côté-là, on a vécu des moments forts. Alors je comprends ce que tu veux dire, Didier, parce qu'à un moment, si on voit que des équipes, entre guillemets, petites équipes qui arrivent en demi-finale, les gens vont se dire, bah, finalement, le niveau n'est pas si élevé que ça. Force est de constater quand même que l'Afrique du Sud, elle ne vole pas sa victoire. C'est pas des équipes qui sont, alors là, elle est restée un peu derrière, on peut pas dire le contraire, ouais. Mais de manière globale, c'est quand même des équipes qui essayent de jouer au foot. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que toutes ces petites équipes ont essayé de jouer, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit l'Angola, et ça a fonctionné, que ce soit la Guinée, que ce soit la RDC. Et avec du potentiel, il se passe quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant dans toutes ces équipes. Maintenant, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. J'ai peur que, vu de l'extérieur, ceux qui ne suivent pas le foot africain vont se dire, bah, puisque l'Afrique du Sud, bah, le Maroc, c'est que le niveau n'est pas très élevé. Mais il ne faut pas le voir comme ça, à mon avis. Une CAN, c'est quelque chose de très particulier. Vous ne gagnez pas une CAN comme vous gagnez un euro. Je dis toujours, à la rigueur, une équipe qui gagne un euro, j'aimerais bien la voir sur une CAN. Je ne suis pas du tout certain qu'elle s'imposerait. Ce sont d'autres rapports de force. Ce sont des combats. Il faut être fort, il faut être présent physiquement. Il y a des conditions atmosphériques qui sont... incroyable, parce que là,
c'est là où je parle de qualité footballistique. C'est que tu parles beaucoup de physique, quoi, et d'organisation.
Absolument.
Après, des belles choses, bon, tout le monde s'émeut. Je suis peut-être pas tombé sur les bons matchs.
Plus que le physique, tu parles d'organisation.
Oui.
Et moi, je trouve que c'est les équipes qui sont très bien organisées, pas forcément physiques, mais qui arrivent à s'imposer. Moi, le Cap-Vert m'a beaucoup impressionné.
Ah oui, c'est très bien organisé.
Ils n'ont aucun grand nom. Ils ont deux vétérans en attaque qui rappellent des vieux souvenirs. Bébé, qui avait joué à Manchester United, et Ryan Mendes, qu'on avait connu jeune espoir au Havre, à Lille.
Bien sûr, il avait fait et signer à Marseille.
Il a 34 ou 35 ans maintenant avec Bébé, c'est le duo d'attaque. Et ça fonctionne très très bien. C'est une équipe hyper bien organisée. Autour du jeune Costa, le défenseur de Toulouse, qui a gagné la Coupe de France. Et franchement, moi, le Cap-Vert, je les ai vus avec une équipe bis réussir à arracher le nul contre l'Égypte, un grand favori de la CAN. Et d'ailleurs, ce nul, ça a permis au Cap-Vert de terminer premier, l'Égypte deuxième, ça précipite aussi les
enfin, l'Égypte, tu as vu le jeu de l'Égypte, franchement, l'Égypte.
Non, mais bon. l'Égypte, est-ce que tu as vu le nombre d'étoiles qu'ils ont sur les cuissons? Il n'y a même plus de place.
Non, mais tu veux que je te raconte l'histoire de la CAN? Les trois premiers qu'ils ont gagné, il y avait quatre équipes. Déjà, à la première CAN, il n'y en avait trois, parce qu'il y en a une qui a déclaré forfait. Ouais. Donc il n'y avait personne, si tu veux.
Oui, mais ils n'en ont pas gagné que quatre, si tu veux.
Non, mais ils en ont gagné quatre autres un petit peu plus tard, au tir au but, au truc. C'est une grande nation du football africain et qui est un habitué de la CAN, c'est sûr. Mais je te dis, c'est pas une grande Égypte. Il y a pas un grand Cameroun, quoi. Tu vois, il y a pas.
On peut voir Zambie 2012.
On peut le voir de deux façons. C'est pour ça que je te dis que je suis dans un clair obscur. Je suis dans un entre deux.
C'est très beau. En tout cas, il y a un chiffre qui résume ce que vous disiez, Didier. 0 sur 5, les 5 nations africaines qui étaient qualifiées pour le mondial sont absentes des quarts de finale. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme renouvellement, mon cher Hervé, hein, sur ça. Hein. La
oui, c'est assez étonnant, effectivement. Oui, effectivement, parce que la logique voudrait quand même qu'il y ait un minimum de continuité. C'est-à-dire que vous avez des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, ce sont des équipes solides qui ont en plus réussi des belles performances là-bas. Et puis là, elles ne font rien. Alors, les équipes maghrébines, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils vont aller loin ici? Parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué pour ces équipes-là en Afrique subsaharienne. Et là, ça a confirmé un petit peu l'adage. Et puis après, d'autres, effectivement, attendaient un petit peu mieux. Bon, le Cameroun, il faut dire une chose, le Cameroun, je suis assez d'accord avec Didier, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est l'un des plus faibles Cameroun que j'ai vu depuis très très longtemps. Maintenant, le Nigeria est là, n'était pas à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a quand même un fort potentiel en son sein. Il y a pas mal de joueurs intéressants, aussi quelques joueurs d'expérience qui vont leur donner un petit peu cette assise morale et mentale pour pouvoir aller plus loin. Un Faye à noter quand même, qui a fait une super première, même dans son coaching, évidemment qu'il n'a pas révolutionné l'équipe. En tout cas, il a fait... il a fait des choses vraiment précises qui ont fonctionné. Et là, cette victoire-là, c'est aussi un peu la sienne, et beaucoup la sienne. Donc, oui, c'est compliqué. Mais je comprends qu'il y ait aussi.
Hervé, merci. Juste dernière question. Sait-on, ou savez-vous, où est Jean-Louis Gasset? Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire ou il est rentré en France?
Non, ancien sélectionneur. Je pense qu'il est rentré en France. Hein.
Ancien, oui.
D'accord. Non, il n'avait aucune raison. Il n'y a aucune raison de rester en Côte d'Ivoire. Hein.
Ok, merci Hervé, bonne soirée, merci de cette conversation toujours aussi plaisante de vous parler. Salut Hervé, bonne soirée, on vous lit demain dans le journal évidemment. La Première Ligue, Arsenal s'impose contre Nottingham ce soir, 2-1.
Il a fallu attendre la 65e minute pour qu'Arsenal passe devant avec Gabriel Jesus trouvé en une touche de balle. Le Brésilien ouvre son pied gauche, son tir croisé file entre les jambes de Turner et trouve le petit filet. Jesus buteur, Jesus passeur ensuite à la 72e. Le centre, Kai Havertz laisse passer, Saka récupère et fait le break. Awoniyi va réduire l'écart pour Nottingham à la 89e en prenant le dessus sur Saliba. Victoire des Gunners, on l'a dit, 2-1. Ils reprennent la deuxième place ce soir devant City, qui a deux matchs en moins. Liverpool est toujours leader.
Autre victoire à l'extérieur ce soir, celle de Newcastle à Aston Villa, 3-1.
Newcastle qui s'est baladé grâce notamment au doublé du Suisse Fabian Schär à la 32e d'abord sur un corner bien frappé au 5-50. Comme ça est trop court au marquage et le défenseur en profite pour reprendre du plat du pied dans le petit filet. À la 36e ensuite, à la récupération d'une volée de Gordon qui a trouvé la barre. Score final 3-1 pour les Magpies qui remontent à la 7e place du classement ce soir. Et les Villans restent 4e.
Ah. On file en conférence de presse et retrouver Pep Guardiola qui a réagi donc au départ de Xavi du Barça.
Le coach de Manchester City était en conférence de presse veille de match contre Burnley et il a totalement soutenu son ancien joueur avec un argument qui peut étonner. Écoutez.
Nous ne pouvons pas comparer la pression que nous avons en Angleterre avec celle que nous avons en Espagne, d'après mon expérience. C'est 1000 fois plus élevé et plus dur là-bas. Ici, pour les entraîneurs, c'est l'endroit où il faut être. Bien sûr, il y a beaucoup de matchs, 6 conférences de presse par semaine et un match tous les 3 jours. C'est beaucoup. Mais la pression que l'on ressent à Barcelone n'est comparable à celle d'aucun autre club. Oui, je comprends tout à fait cette décision.
Damien, pour vous, vous partagez la lecture de Pep Guardiola. Le Barça, c'est le club le plus difficile du monde à coacher.
Et je suis pas le seul. Carlo Ancelotti, j'ai retrouvé une interview de Carlo Ancelotti lors de son premier passage au Real Madrid, où avant d'affronter le Barça, il y avait c'était Gérard Martino qui était à l'époque l'entraîneur du Barça, qui se faisait critiquer de toutes parts.
Ouais, c'était assez compréhensible, non?
Oui. Non, mais tous les entraîneurs du Barça, sauf Guardiola et Luis Enrique, se sont fait critiquer, même s'ils avaient des résultats. Et
Cruyff, un peu moins quand même.
Non, mais après, oui. Voilà.
Après, voilà.
Et tu vois, Valverde, Koeman, tout ça, c'est passé.
Borral.
Voilà. Et Ancelotti, il dit un truc tout à fait juste. C'est qu'à Barcelone, vous pouvez pas vous contenter de gagner, quoi. Il faut gagner avec la philosophie de jeu,
qui date de Mikel, c'est Cruyff, tout ça et tout.
Parce que sinon, ça va pas, ça prend pas. Les 90 000 personnes qui sont au stade, le board, tout ça, ne sont pas contents. Au Real, tant que vous gagnez, il n'y a pas de souci.
C'est pas vrai. Il y a déjà des entraîneurs qui ont été limogés parce qu'ils avaient gagné que la Liga avec le Real.
Capello, je me souviens.
Quand tu gagnes que la Liga, tu gagnes pas.
Il faut gagner la Liga et la Liga. C'est très difficile pour Mourinho. Il avait un jeu minimaliste et ça plaisait pas.
Il y avait aussi une relation conflictuelle avec le board. Il y avait une relation conflictuelle avec les cadres.
Je trouve que ce qu'il dit, ça valait pour un Barça un petit peu plus dans le passé. Aujourd'hui, quand même, ils sont un petit peu moins intransigeants. Tu as parlé d'un nombre d'entraîneurs qui se sont raté, mais il y avait un manque de qualité dans ce qu'il nous proposait. Tata Martino, c'était l'idée de Messi. On a vu ce qui s'est passé avec Coman, qui était un joueur du Barça, qui est entraîneur, ça n'a pas marché.
Quique Setién, Valverde.
Et encore heureux que Xavi ait eu du temps. Il arrive en novembre 2021, on ne s'est jamais régalé, et il décide de partir. Il n'a pas été viré au bout de 6 mois. Donc je trouve que c'est beau ce que dit Guardiola parce qu'il défend son ancien joueur, mais aujourd'hui c'est plus aussi dur. Le Real Madrid, c'est un club où si tu ne gagnes pas, tu es aussi marqué au pilori et tu dégages. C'est arrivé à plein d'entraîneurs de gagner avec le Real et de dégager. Donc de mettre le Barça dans l'idée qui était avant, c'est plus la réalité, parce que le Barça de Xavi, est-ce que c'est le Barça qu'on pouvait imaginer? Pas du tout. En fait, ça ressemble pas du tout à ce que Xavi était comme joueur.
Et surtout, la difficulté à...
Le Barça de Guardiola, c'est un tuto de Barça qui est pas très plaisant d'ailleurs à regarder. Et il est...
Moi, je suis pas d'accord.
Il n'a pas été énormément
contesté. Enfin, sur le Barça de Xavi, je suis d'accord. Mais je me souviens de quand il a été nommé, on avait une émission avec Sébastien Tarrago qui disait, attention, vous attendez pas à ce que... le Barça de Xavi, ce soit le Barça de Guardiola, parce que c'est Xavi.
Après, c'est un club extrêmement compliqué, qui est devenu compliqué ces dernières années. La difficulté, peut-être aussi, c'est que c'est, comme dit leur propre slogan, plus qu'un club, c'est éminemment politique, quoi, avec la Catalogne derrière. Donc, tu as peut-être ce poids. Le Real Madrid, c'est la Castille, mais enfin, c'est quand même la puissance, c'est l'Espagne, etc. Donc, tu as peut-être ce poids supplémentaire et tu te dois de gagner, parce que c'est la Catalogne qui gagne. Contre les méchants, les autres et tout. C'est très régionaliste en Espagne, on le sait. Mais la Catalogne, c'est très spécial.
Guardiola, il dit un peu ça aussi pour valoriser son parcours, parce qu'il a démarré là-bas. Et lui, il est adapté. Non, mais tu parles d'identité. Lui, il a l'identité.
Oui,
c'est moins difficile que pour les autres.
Il a l'identité.
Après, pour juger la difficulté... Juger la difficulté... Oui, mais il y a d'autres entraîneurs qui ont eu Messi et qui n'ont pas gagné. Juger la difficulté d'entraîner un club, c'est à la stabilité du siège de l'entraîneur.
Oui, là, c'était très compliqué. Il y en a un qui allait en prison, il y en a un qui a machin.
Le siège d'entraîneur, il est bien plus éjectable au Real qu'au Barça, franchement. Ce que fait Xavi, moi je ne suis pas forcément...
Oui, mais les conditions de travail, ce n'est pas des conditions de travail.
Mais Xavi au Real, avec ce qu'il a fait au Barça...
Oui, ils n'auraient pas eu la patience.
Belle lurette.
Oui, oui.
Voilà.
Mais donc, je trouve que
c'est plus dur d'entraîner le Real.
Il y a peut-être ce que dit Hugo sur le fait qu'il veut prêcher pour lui. Il y a peut-être aussi qu'il veut défendre un copain, un ancien joueur. Mais c'est un débat un peu à la con. Parce que je pense que vous pouvez le faire avec les Allemands et le Bayern de Munich. Vous pouvez le faire avec en ce moment Chelsea depuis plusieurs années.
C'est un débat à la con, pas.
Je trouve que c'est un très bon débat.
Du coup, les
courses, le Paris Saint-Germain et continue sa route en Ligue des Champions, une qualification après un match nul de partout au Bayern.
Elles ont été menées à deux reprises et elles sont revenues les deux fois. Oui, d'abord grâce à Tabitha Chawinga qui égalise à un partout à la 73e minute. Et puis grâce à un but contre son camp de l'anglaise Georgia Stanway à la 88e pour le 2-2. Un match nul qui permet au PSG de rester en vie et de se qualifier pour les huitièmes en prenant la deuxième place de leur groupe. En revanche, c'est terminé pour le Paris FC après leur lourde défaite contre Chelsea ce soir. Elles perdent 4-0, terminent 3e de cette phase de groupe et sont donc éliminées. Les deux premiers buts partent du même côté, le côté gauche, et les deux sont marqués de la tête. Fran Kirby d'abord à la 9e, puis Mia Fechel à la 36e. Reyton et Mieldeux sont les deux autres buteuses du soir.
Donc Paris qualifié pour la suite et Paris qui termine première avec une égalité de points à l'Ajax, mais une meilleure attaque face à l'Ajax. Les supporters de l'OM sont interdits de déplacement à Lyon. Tiens, pas forcément une surprise.
Décision prise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vu les dégâts qu'il y avait eu aux abords du Vélodrome à la date programmée du match aller le 29 octobre dernier. Le bus des joueurs avait été caillassé, Fabio Grosso gravement blessé, et la rencontre avait logiquement été reportée sans la présence des supporters lyonnais. Il n'y aura donc aucun supporter marseillais autorisé au Groupama ce dimanche soir pour le match retour.
Vers un joueur de l'équipe de France de hand, sacré champion d'Europe dimanche, placé en garde à vue ce soir.
Benoît Kounkoud, qui est soupçonné de tentative de viol d'après les premiers éléments de l'enquête de police. Le joueur aurait baissé son pantalon et tenté de violer une jeune femme dans une discothèque du quartier des Champs-Élysées la nuit dernière, donc dans la foulée de son titre. Averti, un vigile de l'établissement l'a maintenu sur place jusqu'à l'arrivée des policiers de la BAC de nuit parisienne qui l'ont interpellé. Il était ivre. Il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue pour être interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire.
L'ASVEL n'a rien à faire en Euroleague. Une défaite contre Fenerbahçe, la 19e en 24 journées d'Euroleague.
5 jours après leur victoire contre le Bayern, c'est dommage parce qu'ils auraient pu enchaîner les Villeurbanais en bleu ce soir sur leur parquet, sauf qu'ils ont craqué en deuxième mi-temps, qu'ils s'inclinent donc pour la 19e fois cette saison dans la compétition. Fenerbahçe a su faire la différence après la pause pour renverser le match et l'emporter par 10 points d'écart, 83-73. Prochain match de l'ASVEL sur le parquet du Real ce jeudi à 20h45.
Le staff de l'équipe de France de basket en repérage aux States avant les JO.
Et ils étaient d'ailleurs à San Antonio la nuit dernière pour le match des Spurs de Victor Wembanyama. Le rookie et ses coéquipiers se sont inclinés face aux Wizards menés par un grand Bilal Koulibaly. Défaite 118-113. Le Français a évoqué sa discussion avec Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, au coup de sifflet final. On va l'écouter.
Évidemment, on a parlé de sportifs. Les conditions dans lesquelles faudrait qu'on rentre dans la prépa, l'organisation, les matchs amicaux, comment je me sentais moi, comment on aimerait développer notre jeu dans cette campagne. Ce qu'on pouvait faire à la fois pour aider, pour rendre l'équipe de France meilleure, mais aussi le basket français meilleur. Et voilà, plein de choses intéressantes pour l'avenir.
Arthur Cazeux a brillé à l'Open Sud de France à Montpellier.
Il avait la lourde tâche de confirmer après son 8e de finale à l'Open d'Australie. Et le Français de 21 ans continue son début de saison de rêve puisqu'il a fêté son retour chez lui par une victoire à domicile face à l'Allemand Maximilian Marterer. Direction les 8e, victoire en deux manches sèches, 6-1, 6-3. Il faut dire qu'il avait donné le ton dès le début du match. Son premier service a été flashé à 239 km/h. Une vraie rafale, pas loin du tout du record français d'Albano Olivetti, 257,5 km/h. C'était en 2012 dans un tournoi italien. Et pour votre culture personnelle, c'est l'Australien Sam Gross qui détient le record du monde du service le plus rapide. C'était en 2012 aussi, au Challenger Tour de Busan en Corée du Sud. Ouais. Et devinez, c'était combien?
297.
Il ne faut pas exagérer.
234.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit qu'il y a eu 257,5.
Mais tu n'écoutes rien.
Bon, Zoubé, ça va pas du tout. C'était 263 km/h.
Ah bah voilà.
Damien, t'aurais pu tricher, là, mais il faut jusque-là.
Je ne triche pas jamais. Je n'ai pas encore mesuré, sinon c'était Philippe.
Bon, sinon, ce n'est pas passé pour Richard Gasquet face à l'Espagnol Yamas Ruiz, et ce n'est pas passé pour Hugo Gaston non plus contre Chapovalov. En revanche, Maillot Barrère et Muller ont respectivement sorti Pouille, Blanchet et Escoffier dans leur duel franco-français.
Ok, on termine avec la victoire du Néerlandais Casper Van Hunden sur la première étape du Tour d'Arabie Saoudite.
Il a été le premier à lancer le sprint et il termine devant Dylan Groenewegen et Tim Merlier. Brian Coquard n'a pas pu suivre, il termine 21e. Le premier français, c'est Jason Tesson à la 13e place. Ça s'est passé sur l'équipe live. Regarde.
Jason Tesson, yeah.
Dans les 500 derniers mètres, Juan Sebastian Molano qui va être en position idéale pour aller remporter cette première étape. Mais ça va revenir de derrière avec Tim Merlier qui lance de très loin. Soren Varenschnold également qui fait l'effort plein cadre. C'est Casper Van Hunden là sur le centre de votre écran qui est à la lutte avec Juan Sebastian Molano. Ça va être très serré. Casper Van Hunden pour la première victoire chez les professionnels. Et je pense que dans les équipes, voilà, on ne sait pas. Confirmation, ça y est. On vient de donner l'information à Casper Van Hunden qui va chercher enfin cette première victoire. Cette première victoire chez les professionnels. Casper Van Hunden qui s'impose et qui sera le premier leader.
Rendez-vous demain 14h sur notre antenne pour l'étape 2. Initialement, ça devait être le départ de la 54e étoile de Bessèges. Le départ a été annulé par la préfecture. Elle ne veut prendre aucun risque avec les manifestations des agriculteurs.
Ah, ça me rappelle l'histoire des manifestations, des manifestants qui perturbent une course. Tu ne sais pas, Paris-Nice, 1984.
Bernard Hinault.
Avec Bernard Hinault.
Qui fait le coup de poing.
On a quelques images comme ça. Alors, je suis allé quand même relire l'article de l'équipe. Bernard Hinault se retrouve au sol. C'est quand même pas par hasard, puisque Bernard Hinault avait été mis à terre et frappé par des manifestants. Faut pas agresser le blaireau. Regardez la réaction. Boum, un coup de poing. Pas en pleine paix, d'ailleurs. OL rêve d'Europe à présent. Merci, Virginie.
Merci beaucoup.
Non. Voilà, OL rêve d'Europe, John Textor à la une de l'équipe, c'est l'entretien du jour. L'OL n'est pas un club qui descend, oui, car l'équipe s'améliore chaque jour, précise le boss de l'Olympique Lyonnais. John Textor a-t-il un discours mobilisateur ou dangereux? Mobilisateur, nous a dit l'auteur de cet entretien, tiens, c'est Hugo Guillemet, vous avez une minute pour nous convaincre. La lecture du discours de Textor, on vous laisse la main, on va abaisser un peu l'intensité lumineuse, le compte à rebours déclenché, c'est à vous de jouer.
Je réponds mobilisateur par opposition à dangereux, parce que j'ai déjà entendu John Textor avoir des discours dangereux par le passé, il n'y a pas si longtemps, quand il disait que Lyon allait concurrencer le PSG, quand il visait la Ligue des Champions. Voilà, tout ça, c'était des discours dangereux. Quand il disait que bienvenue en France pour critiquer la DNCG alors qu'il n'était pas encore passé devant et au final, ça lui a gâché son dernier mercato. Tout ça, c'était des discours dangereux. Là, il a un discours très mesuré avec la DNCG. On a l'impression qu'il a compris où il a mis les pieds. Alors peut-être quelques petites erreurs, mais en tout cas ce qu'il dit sur le mercato, il lance une petite pique à sa cellule de recrutement et à son directeur sportif David Friot en disant qu'il manque deux joueurs. On a vu aujourd'hui qu'ils sont en train de faire les deux joueurs, donc la pique a fonctionné. Il lance aussi des petites piques de mobilisation à ses joueurs, voilà, en disant que c'est un vestiaire qui a du mal à se regarder dans un miroir. Il mobilise Cherki parce qu'il sait qu'il va rester, qu'il va avoir besoin de lui sur la seconde partie de saison. Il parle aussi de Lopez. Donc, il n'a rien oublié. Globalement, c'est plutôt positif et mobilisateur.
Ok. Hugo, vous êtes-il convaincu ? Vous allez sur le site L'Équipe. Avez-vous été convaincu par la minute pour convaincre Hugo Guillemet ? Ah, c'est la question que je vais m'apprêter à poser aux autres chroniqueurs de l'équipe du soir. Karine, oh, pas beaucoup quand vous faites cette tête-là comme ça. Non, vous n'avez pas été convaincu, j'ai l'impression. Bah,
Hugo peut-être, mais John pas du tout.
Donc. D'accord,
Hugo. Vous prouvez que c'est dangereux, du coup.
Dangereux, mobilisateur, c'était l'explication.
J'étais quand même sur la phrase que vous avez mis en exergue, pas sur l'intégralité de l'interview. Et sur cette phrase-là, je trouve que c'est plutôt dangereux d'avancer.
Plutôt dangereux.
Ah, c'est sur la phrase, le truc.
C'est un discours mobilisateur.
Un discours, c'est l'interview.
Non, pas, c'est toute l'interview du Hugo.
Évidemment, c'est tout. C'est l'interview.
J'ai convaincu d'ailleurs.
Il y a une phrase, chausse-pied. Dominique.
John est dans le déni.
John est dans le déni.
Ouais.
Didier.
Un duel
Non, on va pas faire un duel sur une minute pour convaincre et puis.
Non, j'ai trouvé plutôt mobilisateur. J'ai été plutôt convaincu par Hugo et par l'interview, ça se tient, tout ce qu'il dit. Bon, c'est toi qui l'as fait. Hein,
Oui, mais il a le droit d'être contre.
Pardon ?
Il a le droit d'être contre.
Tout à fait, mais il n'est pas contre, c'est pas parce qu'il l'a fait qu'il est contre.
Ah, bien sûr.
Voilà, bon. On en parle après.
Mais il y a des choses que je trouve moins habiles qui sont dans l'interview.
On en parle dans quelques minutes. Bah tiens, vous me direz pourquoi. A tout de suite, mes petits. On refait une table John Textor avec Hugo et les copains. Textor était à la ligne de l'équipe, c'est l'entretien du jour. LOL n'est pas un club qui descend, oui, car l'équipe s'améliore chaque jour. Un discours jugé mobilisateur dans l'ensemble de l'interview par Hugo Guillemet. Vous êtes face à une marée, voilà, de Damien Degore. Damien, vous me dites, non, c'est le genre de truc qui est plutôt dangereux.
Et empiriquement, là, ça a toujours été dangereux de penser ça, que des clubs de l'envergure de Lyon ne descendait jamais. Monaco, en 2010-2011, ça faisait 35 ans.
Mais tu sais que c'est un titre, c'est pas l'interview, c'est le titre qui a été choisi. Non, c'est pas que ça, l'interview. Il le dit dedans. Mais tu ressors, c'est pas ça, oui, l'interview.
Je pense que
c'est pas la substance moelleuse de l'interview.
Sa manière de penser, c'est là. Il est à la tête d'un club qui est à l'abri de ce danger-là. Voilà.
C'est Bordeaux. Enfin, c'est Bordeaux qui croit qu'il descend.
C'est Bordeaux qui croit.
En fait, la manière dont il l'a dit.
En Ligue 1 et qui n'allait jamais descendre.
En fait, la manière. Non, mais attends, écoute, Dominique. La manière dont il l'a dit.
Une minute.
Non, mais je te dis juste un truc, une précision. C'est pas un argument. La manière dont il l'a dit, il l'a pas dit. Lyon ne descend pas. Il a dit Lyon n'est pas un club qui descend.
Et donc,
ça
participe de ce que je te dis.
Ça participe à valoriser l'institution qu'il a achetée en disant Lyon, c'est pas un club qui descend normalement. Mais ça ne veut pas dire que Lyon ne peut pas descendre. Je suis complètement d'accord avec Damien.
La réalité, c'est le terrain.
Bien sûr.
Là, face au Havre, il n'y a pas photo, ils se font ratatiner.
C'est le Havre.
Face à Bergerac,
à 10,
l'arbitrage est scandaleux de Monsieur Bata. Lyon n'est pas du tout souverain. Et ce qu'on a vu face à Rennes la première mi-temps, mais c'est terrible. Alors effectivement, le premier but lyonnais, il est très bien construit et c'est beau, mais la première mi-temps, elle est affreuse. Il n'y a rien. Affreuse. Et au final, ils perdent encore 3-2. Donc ça fait deux défaites de suite en championnat et une qualification qui est certes intéressante pour les têtes, mais qui n'est pas rassurante dans le contenu. Donc je ne vois pas en fait ce qui lui permet de nous dire que l'équipe s'améliore, qu'il y a du mieux. Je veux dire, Matic, il ne va pas tout résoudre, a priori.
Mais en plus,
il y a plein de problèmes à tous les niveaux.
La question, c'est pas de savoir si ce qu'il dit, il a raison de dire ça, c'est de savoir est-ce que c'est un discours mobilisateur ou dangereux. Moi, je suis d'accord avec toi, Karine, c'est faux ce qu'il dit. L'équipe n'est pas en train de s'améliorer foncièrement. Mais peut-être sur certains aspects, et on verra avec le mercato.
Et c'est dangereux de penser que Lyon ne peut pas descendre.
Je suis pas sûr qu'il le pense vraiment, ou c'est un effet.
Et Hugo, ce que tu as dit, c'est le minimum syndical.
Je sais pas ce qu'il pense vraiment.
Si le patron.
Je pense qu'il connaît le foot, quoi.
Si le propriétaire d'un club, dans une interview d'un journal aussi puissant que l'équipe, commence à mettre un tir à Cherki, un tir à Lopez, un tir à l'entraîneur, un tir à tout le monde. Bah alors là, on se dirait, mais attendez, les gars, ils sont en train de perdre des matchs en Ligue 1 et leur propriétaire, donc c'est le minimum syndical. Il vient rassurer, il dit Cherki, il nous doit une fin de saison magnifique, Pierre Sage, c'est génial, le mercato, on va résoudre nos problèmes. Mais ce qu'il dit sur la non-descente, l'espèce de truc qui ferait que Lyon est préservé institutionnellement d'une non-descente parce qu'il a un nom, parce qu'il a 7 titres d'affilée, parce qu'il a fait rêver le football français au cœur des années 2000, ça c'est très dangereux. C'est le discours qu'on a eu à Auxerre, Bordeaux.
Oui, Saint-Etienne.
C'est terrible, mais le reste, c'est normal qu'il défende son club. Sinon, s'il tenait une interview pour dire, je crois que j'ai mis des millions dans un club de bidon, ah oui, là, effectivement, on va dire,
c'est chaud, quoi, quand même. Ben non, il fait le minimum syndical.
On va regarder le résultat, si vous avez convaincu l'ensemble des téléspectateurs sur le site L'Équipe Mobilisateur ou... Bah oui, oui. Voilà. Hugo, vous avez la cote également.
Je suis le président.
Mais il a raison.
Suivez le président.
Les spectateurs.
Et justement, le Mercato Express au menu, notamment des informations sur l'Olympique Lyonnais. Info L'Équipe, Hugo Guillemet. L'OL et West Ham sont tombés d'accord ce soir pour le transfert de l'ailier algérien Saïd Benrahma. On peut avoir quelques détails, Hugo?
C'était c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux parce que enfin je sais pas si lui il est encore en grande forme et s'il va vraiment apporter à Lyon, mais en tout cas c'était leur priorité, la priorité de David Friot. Il y avait des difficultés, ça a mis très longtemps parce que il a des niveaux de salaire et qui sont quand même très élevés parce que ça fait longtemps qu'il est en Angleterre. Ils étaient partis sur d'autres joueurs, Danjuma, etc. Mais tant mieux pour eux parce qu'ils arrivent à faire leur priorité numéro un.
Danjuma, c'est mort.
Ils veulent pas Danjuma en plus.
Danjuma, c'est mort.
Parce qu'ils ont quand même pris, Fofana, Orban.
D'accord.
Et maintenant Benrahma, il reste Cherki, Lacazette. Ça fait du monde devant.
Et la deuxième recrue, ce sera le milieu de terrain de Nottingham Forest, Aurel Mangala ou pas?
Oui, il est. C'est lui qui est le plus proche en tout cas de signer, même s'il y avait plusieurs pistes. Alors la priorité c'était Matic, ils l'ont fait. Pierre Sage avait révélé dans sa dernière conférence de presse qu'ils attendaient peut-être aussi un deuxième milieu.
Ouais.
Et donc il y a d'autres pistes qui sont sorties. Il y avait Jérémy Lochberg, ouais. André de Fluminense. Donc des pistes à chaque fois qui sont quand même très coûteuses. Mmh. Aurel Mangala, c'était peut-être le plus accessible.
Alors, il y a Nottingham millions,
Forest. Il joue à Nottingham Forest, il a joué ce soir contre Arsenal et il joue dans une équipe qui se bat pour pas descendre. Donc, je vois pas Nottingham Forest se démunir de joueurs.
Sur Nottingham Forest, t'es pas loin d'un accord avec Lyon et ça serait la même structure pour Benrahma, c'est-à-dire un prêt avec une option d'achat.
Ah ouais, ouais. Ok. Et on passe au Paris Saint-Germain. À Paris, le mercato se conclut jeudi et Hugo Ekitike n'a toujours pas rallié Francfort. C'est quoi le problème, Damien?
Le problème, c'est que Paris demande une option d'achat obligatoire à 30 millions d'euros.
Ouais.
Francfort veut pas mettre 30 millions d'euros.
D'accord.
Et Paris a pas envie de faire de cadeaux à Francfort qui n'en avait pas fait à Paris l'été dernier en refusant d'augmenter les conditions salariales d'Ekitike afin de le convaincre de partir l'été dernier. Donc c'est un jeu de négociation, mais je pense que ça devrait quand même se faire.
Même question, mais là pour Dominique Sebrac, Levin Kurzawa, je crois que c'est de la semaine dernière où on apprenait sous votre plume que Levin Kurzawa pourrait partir. Il est toujours au Paris Saint-Germain, c'est quoi le problème?
C'est-à-dire que le problème, c'est que moi je vois qu'il n'y a pas d'offre qui arrive. Quoi. Pour partir, il faut quand même avoir une petite offre. Quoi. Et puis que le joueur était toujours en position de force.
Il y a peut-être un problème au niveau de son salaire.
Ils ont mis Kurzawa sur le marché des transferts. Mais c'est un manque de respect, ça. Franchement. Tu le préviens comme ça une semaine. Quel manque. Tu l'as mis dans le papier que c'est un manque de respect ou pas?
Benzema devrait rester en Arabie Saoudite, mais changer de club. C'est une information L'Équipe de José Borozo à du Al Ittihad. Bonjour, un club basé à Riyad. Mais on n'a pas le nom du club de Riyad. Des discussions sont en cours, précision de José Borozo. Parmi les clubs de la capitale de l'Arabie Saoudite, il y a les deux plus prestigieux. Il y a Al Nasser, le club de Cristiano, et Al Hilal, le club de Neymar. Et puis une dernière information, Lorenz Assignon est courtisé. Ce soir, on apprend par L'Équipe que Rennes a mis un bon de sortie. C'est 10 millions d'euros pour s'offrir Lorenz Assignon, sachant que l'OM est sur le coup, mais également Feyenoord et Galatasaray. Donc, il en coûtera 10 millions pour enrôler ce joueur de 23 ans. Pour la fin de contrat se termine en 2027. Voilà le tour du mercato, l'essentiel ce soir. Nous allons jouer à présent.
Avec plaisir.
Nous allons jouer. Qui est les deux jokers?
Dominique.
Excusez-moi. D'abord, pardonnez-moi. La une de L'Équipe, on la regarde.
Même quand il s'est pris 90% dans la gueule.
Elle est importante en plus. SOS Fédération en danger, la Fédération française de rugby, qui est dans une situation financière préoccupante, ce qui va l'obliger à réduire son train de vie. Et ça inquiète le rugby amateur.
Ok. Merci. Le quiz avec
quel est les jokers?
Le joker, c'est Didier.
Que ce soit Didier parce que évidemment.
Didier a écrit un très bon livre puzzle. On n'en a pas parlé.
On n'a pas parlé de puzzle ce soir. C'est assez scandaleux, mais bon.
Mais quel lèche ce gars.
C'est l'anniversaire de Juninho. Il a 49 ans.
Oh là, c'est pour Hugo ça.
Le thème du soir.
Non, c'est pas sur Juninho.
Je suis français et j'ai joué avec Juninho.
Ah,
attention mes petits, il y a des tours de vis parce qu'il n'y a pas que Lyon parfois dans certaines réponses, alors attention.
Ouh là là.
Il y a parfois du Lyon, souvent du Lyon, mais pas que du Lyon.
Souvent du Lyon.
Allez, je suis le français avec lequel Juninho a le plus joué.
Govou,
c'est le premier, c'est une mauvaise réponse.
Non, je voulais
Coupé.
Pas dire.
Non,
Coupé, 4 points ah, bien joué. Pour Karim Galli. J'ai participé au Mondial 2006, je ne suis pas un joueur de champ. J'ai fait ma carrière au PSG, Grégory Coupet. Bravo Karim, 4 points. J'ai remporté une fois la Ligue des Champions français, j'ai joué avec Juninho. J'ai remporté une fois.
Malouda.
Malouda, Florent Malouda, 4 points
ah ouais, c'est
pour Damien Deleu.
Il est sorti comme ça.
Oh, pop.
Faut peut-être éliminer les gens. Hein.
C'est long. Quoi ?
Non, je dis qu'il faudrait peut-être éliminer des gens.
Oui, mais pour l'instant, vous n'avez pas marqué de points, donc Didier vous attend.
J'attends un peu.
Je suis formé à Toulon. 4 points. Mais c'est à Monaco que je me révèle. 3 points.
C'est bien.
Je suis aussi passé par les clubs d'Arsenal et du FC Séville.
Canouté, non.
Canouté, non, c'est non. Une mauvaise réponse.
Ah non, non.
Quoi ?
J'étais défenseur central.
Grimandi.
Grimandi, non. Mais il y a une bonne rime.
C'est pas la même.
Mendy.
Mais chut,
Skilacci. Sébastien Skilacci. Bonne réponse.
Ah, Skilacci.
Un point pour
c'est
Hugo.
C'est tout long, ça nous a tous tués.
Je compte 6 sélections en équipe de France. Français, j'ai joué avec Juninho. Et je compte 6 sélections en bleu. Alors attention, ne vous précipitez pas parce que le deuxième indice est très vicieux. J'ai la particularité d'avoir joué avec Juninho dans deux clubs différents, Lyon et les New York Red Bulls.
Réveilleur.
Anthony Réveilleur, c'est une mauvaise réponse, Didier.
Non-song.
Il revient, Didier.
Non, Louyindoula.
Louyindoula. Bravo, Karine, c'est 3 points.
Eh ben, on va éliminer Karine.
Il
est revenu pour elle.
Si, il est revenu pour lui. Ça.
Je suis formé à l'Olympique Lyonnais.
Govou,
4 points pour nous.
Alors, il est formé au Puy.
Hein ?
Il est formé au Puy en
Puy. Non, il est passé
pour le Puy. C'est vrai,
il a été formé.
Il arrive à
18
ans. Il arrive à 18 ans.
Non, non, l'intitulé, excusez-moi, j'étais post-formé à Lyon. C'est une bonne chose. J'ai remporté l'Euro 2000 pour 4 points français. Et j'ai joué avec Johnny.
Wiltord,
4 points. Didier, t'as la chance. Didier est chaud, Didier est bouillant. Comme Wiltord, j'ai remporté l'Euro 2000.
Et j'ai toujours joué avec lui, là. Ah.
Mais également la Coupe du Monde 98. Il y a un truc, là.
Abidal.
Abidal ?
Non.
Je reviens.
Non. Dugarry.
Dugarry, non.
Du tout.
J'ai joué avec Juninho au New York Red Bulls.
Ah, c'est toujours, c'est New York
Red Bulls.
Thierry Henry. Hugo Guillemet. 2 points supplémentaires pour Hugo.
Attention. Allez, on va aller les chercher, là.
J'ai joué avec Juninho, je suis français, et j'étais numéro 10.
Eric
Carrière, 4 points. Il ouvre le score.
Yeah !
Oh, Dominique.
Mais non.
Trop facile.
Voilà. Le retour du Félix.
Attention, mes amis. Un Français qui a joué avec Juninho. Et il est toujours en activité.
Benzema,
4 points pour... Damien Degore. Ils sont forts ce soir.
C'est énervant.
Franchement, ils sont forts.
Aïe, aïe, aïe.
Attention, on arrive près de la fin.
Money time.
C'est sérieux.
J'ai participé au Mondial 2006. Français.
Abidal.
Govou, il est déjà sorti.
Abidal.
3.
Ah bon ?
Abidal. Ouais, Abidal non plus, Didier. On élimine Didier. C'est ni Govou, ni Abidal.
Boumsong.
Boumsong, c'est une mauvaise réponse.
Aloudiara,
c'est une mauvaise réponse.
Bon, il reste plus personne.
Oui, tranquille.
Deuxième indice, vous êtes tout seul. Hein. Pour 3 points. Ouais. Compétition dans laquelle j'ai filmé mon quotidien de remplacer.
Piquage de Rasso.
Piquage de Rasso.
Avec Fred Poulet.
Dernière,
oh là, c'est
dernière pour la route, ce quiz est fantastique. Attention,
c'est Johnny.
Donc, je suis français, j'ai joué avec Johnny et je suis champion du monde pour 4 points.
Champion du monde 2000.
De quelle année ?
98, 2000.
Malouda.
Malouda,
non,
c'est déjà sorti.
Il n'est pas champion du monde.
Il n'est pas champion du monde.
Ah,
il
est champion du monde. C'est merde, oui. Oh,
pour 3 points, j'occupe le même poste que Grégory Coupet.
Hein ? Mais c'est lequel ?
Lloris.
Oui.
Mais qu'est-ce qui s'est
passé ?
Mais qu'est-ce qui se passe, Damien ?
T'as commencé en plus ! J'ai pas compris, là.
Mais personne gagne, il faut refaire.
Il y en a encore un,
Vite, j'en ai un dernier.
Non. Allez, tout le monde peut gagner.
J'ai pris récemment ma retraite. Français.
Ben Arfa,
non. J'étais formé à Lyon. Ma carrière s'est terminée à Brest.
Louis Crémy.
Oui,
j'ai gagné.
deux points.
Alors, il n'y a plus.
Ah, ben c'est fini.
Il y a trois vainqueurs.
Et comme c'est le président qui gagne,
allez, j'ai gagné. On est à la bourre.
Non, tu n'as pas gagné.
Mais non, mais t'as pas gagné. Mais t'as pas gagné.